to the floor. These emotions are where I'm sore. Fighting the gravity, a violent tragedy. I'm afraid of running away, cause I'm always a play. It still feels the same. I'm trapped like a slave, caught in this way, but not too great. Just pretend to love me. Stick me where my heart.
C'est à moi, on va couper cette petite musique et on va lire les journaux. Comment ça va en ce mardi matin? Vous tous, revue de presse sur un train d'enfer, parce que j'ai un rendez-vous pour préparer au mieux notre prochain stream musée qui sera dans 15 jours au mois de mai. Petit rendez-vous technique, petite reconnaissance pour vérifier notamment si la connexion passe au mieux dans tous les endroits du musée qu'on a prévu de visiter. Avec l'ami Joe, et je suis content parce que j'ai investi encore dans du matériel pour pouvoir additionner désormais non pas deux, mais trois connexions internet, trois opérateurs, voilà, de la meilleure façon possible. Je suis content parce que c'est moi qui l'ai fait avec mes petits doigts. Comment ça va? Ça c'est important, mais ça c'est encore plus important. Il y a Gogo 8002 qui nous dit: purée, je passe un entretien d'embauche ce matin, souhaite-moi bonne chance. Mais carrément, mais plus que de la chance, on t'envoie un max de force. Ça va bien se passer, tu vas voir. Je remercie Dr Vanel pour le premier sub du matin, c'est toi, 18 mois d'abonnement, merci beaucoup, merci pour ce 10e mois d'abonnement, Opto 2A. Vélachand, je crois qu'on m'a jamais posé cette question, enfin je m'en rappelle pas, qui se pose une question sur le statut des journalistes de service public. Je suppose que vous n'êtes pas fonctionnaire. Nous n'avons pas le statut de fonctionnaire, je te le confirme. Ouais. Quel est le statut contractuel sous CDD en CDI? Enfin, c'est un contrat de droit privé, en fait, pour une entreprise qui est publique. Et on dépend de la Convention nationale de l'audiovisuel public. Voilà. Mais du coup, quel statut contractuel sous CDD en CDI? Ben, ça dépend, en fait, du salarié. Moi, je suis en CDI, par exemple. Mais je travaille avec des confrères en CDD. En fait, comme une entreprise, j'ai envie de dire, privée classique, finalement. En termes de statut, en tout cas. Donc, on n'a pas du tout de statut fonctionnaire ou apparenté. Voilà. Je me demande aussi si toutes les personnes travaillant dans le service public audiovisuel sont du coup avec des contrats précaires ou pas forcément. Non, non, il y a du contrat précaire dans le service public comme il y en a partout. J'aurais tendance à dire, je l'espère en tout cas, moins que dans le privé. J'espère en tout cas. Voilà, mais je te le dis sans certitude. J'essaierai de bosser un peu sur le sujet et de trouver des infos. Puisqu'on ne sait pas tout ici, et on le reconnaît Je pense que c'est le début de la sagesse de dire qu'on ne sait pas tout et qu'il faut vérifier, parce que plutôt que faire mine de savoir et vous dire n'importe quoi, je préfère m'abstenir et vous dire quand je ne sais pas. Yes, Caradoc, ça commence à faire un moment que tu as ton studio, bah, ça fait quelques semaines, je dirais un mois peut-être, hein. Ça correspond à ce que tu... Pardon, pour les poumons espérés, oui. Oui, exactement. Ouais. Ouais, bah, c'est ton droit où on peut laisser le matériel, ne pas le débrancher, le rebrancher à chaque fois, embêter un peu moins la famille, s'investir un peu plus. Non, en termes, c'est un super outil pour bosser. Ouais, je suis super content. Merci en tout cas pour la petite question. Bonnes vacances, Galac 25. C'est court, deux jours, mais c'est cool. Profite bien. Merci Maud Guillot pour le 20e mois d'abonnement. Salut Maud, ça va ? Merci beaucoup la Contamine 46 pour le gentil message. C'est gentil. Oh. Bonjour Samuel, mon fils vous appelle Top depuis ses 3 ans. Pourquoi ? Parce que je dis Top, donc question pour un champion. Top, je suis... C'est ça au début de certaines questions ? C'est pour ça qu'il m'appelle Top, la Zouache. Bisous à lui en tout cas. Il n'y a que moi qui n'ai pas de son, me dit Clément. Oui, Clément. Alors, j'espère que tu lis sur les lèvres, Clément, parce que du coup, je te réponds en son. Oui, désolé, comme tu le vois, personne d'autre ne le signale dans le chat, donc un petit problème de son de ton côté, mais ça va s'arranger, je suis sûr. Tout le monde a son petit studio de stream maintenant, Inox, Domingo, Sam. Alors, c'est mignon de me comparer à ces gros youtubeurs ou gros streamers, mais c'est très artisanal ici. Ah, c'est intéressant ce que dit le étoile rouge des comptoirs sur sa situation à l'université. Je suis contractuel à l'université. L'université qui tient sur la précarité, 70% des enseignants sont contractuels et donnent plus de 30% des heures de cours. Alors s'il y a peut-être de la précarité à France Télévisions, c'est absolument pas à ce niveau-là. On n'est pas payé à temps, on n'est pas mensualisé, on est payé en dessous du SMIC, donc c'est pas forcément mieux que dans le privé. Merci pour ce témoignage. Oh là là, non, impossible ça, le Fury Class Sport. Est-ce que tu as des petits conseils pour réviser l'actu pour les concours de journalisme qui arrivent dans 10 jours ? Ben, je pense que si tu fréquentes au quotidien les médias, que tu... Bon, ben, moi, vous savez que mon kiff, c'est la presse écrite. Il y a des petits trésors, des petits bijoux ce matin. Vraiment des articles extrêmement intéressants, notamment sur la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et toutes les LGBTI phobies. Là, il y a une double page dans le Parisien. À la veille de cette journée, avec un petit peu d'avance, par exemple. Ça, c'est un petit peu mon coup de cœur ce matin. Donc, gros coup de cœur pour la presse écrite en général. Si tu lis un quotidien régulièrement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Si tu es avec nous au quotidien le matin aussi, et je sais que c'est le cas, je pense qu'en vrai, pour préparer, réviser l'actu pour les concours de journalisme, sans faire ma promo, en fait, je pense que ça va, quoi. Ça le fait, hein. On balaye pas mal, quoi. Lolo le capitaine, la vraie question ce matin Samuel, c'est pourquoi il y a un bout de scotch noir sur le micro ? Parce qu'en fait, des micros comme ça, j'en ai 5 ici, 4 pour mes invités de l'hebdo Etienne, et celui-ci, c'est mon chouchou, c'est le même que les autres, mais c'est mon chouchou, ne me demande pas pourquoi, c'est le même. Et du coup, je lui ai mis un petit bout de scotch noir pour ne pas le confondre avec les autres. C'est le même, hein ? Mais voilà, c'est les vieux, parfois c'est des petites marottes comme ça, c'est un peu bizarre. Samy 21112, c'est la première fois que tu es là et tu as écrit dans le chat, ça sert à quoi de lire les journaux ? Alors, différentes choses. Ça sert à quoi d'être informé déjà ? Alors, informé, à mon humble avis, et ça n'engage que moi, on n'est pas obligé de partager cette idée. Alors, il y a Cyril qui dit à s'informer, c'est plus difficile, c'est plus compliqué que ça. Ça sert à quoi de s'informer ? On pourrait dire que c'est pas obligatoire en soi de s'informer. Quelque part, c'est bien quand même. Pourquoi ? Parce que pour comprendre le monde dans lequel tu vis, déjà, pour comprendre déjà le pays dans lequel tu vis, ce qui s'y passe, les sujets importants de débat, quelles sont les règles qu'on veut établir pour vivre ensemble ? Puisqu'en fait, c'est ça en fait. La politique, ce sont ces gens qui... une fois qu'ils ont été désignés par nous, lors des élections, eh bien, définissent les règles qu'on appelle les lois du vivre ensemble. Si tu veux participer à ce, à ce débat-là. Alors je sais qu'il y a beaucoup de défiance et de méfiance envers la classe politique, bien sûr, et les élections, et pour des raisons qui sont fondées et justes bien souvent. Si tu veux participer à ce débat malgré tout et exercer ton droit de citoyen qui est de voter, c'est bien de connaître l'écosystème des décisions qui vont être prises. Donc, en gros, comment fonctionne notre pays, où en est notre pays, quels sont les grands débats, idem au niveau de la planète, bien sûr. Donc, quelque part, on pourrait supposer, même si c'est plus compliqué que ça, pour simplifier, que pour être... pour exercer dans de bonnes conditions son droit et quelque part son devoir de citoyen, eh bien, il faut être bien informé. D'où la lecture des journaux, pour revenir à ta question, puisque pour moi, la meilleure source d'information, c'est la presse écrite, ce qui est un peu paradoxal. Je ne vais pas régler ma caméra. Voilà, là, c'est bien. La presse écrite, c'est une presse qui prend un peu le temps, qui n'est pas dans l'accélération du temps info qu'on constate sur Internet, qu'on constate sur les chaînes info. Là, c'est une presse... Qui prend oui le temps de réfléchir, de et puis qui est diverse, qui est multiple. Le Figaro ne décrit pas les choses de la même façon, avec la même ligne éditoriale, le même regard, les mêmes valeurs que Le Parisien, que Les Échos, que La Croix, que L'Humanité, que Libération, que j'ai pas ici parce que il y avait un peu moins d'articles qui m'intéressaient ce matin, que L'Opinion, etc. Voilà, je sais pas si c'est convaincant ce que je dis, mais en tout cas c'est ce que j'en pense. Bien sûr, Tristana, tu as raison. Message pour le sujet contre l'homophobie, tu pourrais l'écrire tout à l'heure, mais je le trouve important, donc je le lis maintenant, message de Tristana, qui dit « Il y a encore beaucoup à faire, la FFF qui ne va pas sanctionner, là on parle de la lutte contre l'homophobie dans le milieu du sport et du football, c'est un message catastrophique, bien mettre dans la tête des gens que l'homophobie, la transphobie, la biphobie, comme toute autre forme de discrimination, ce ne sont pas des opinions, mais ce sont des délits, des bises que je te renvoie. On en parlera longuement tout à l'heure. Pour moi, c'est le sujet le plus important dans la presse de ce matin. Bonjour de Madrid, me dit Marine. Bonne journée aux Madrilènes. Bonjour Sam, autre question qui n'a rien à voir. À quoi sert l'ordi sur la table sous Tintin? Ça, c'est mon petit Mac portable avec lequel je fais plein de choses. C'est là où je travaille sur la programmation des invités, par exemple, pour l'hebdo Étienne. C'est là où sont tous mes projets. Si on zoome bien, d'ailleurs, il y a un fichier Word à droite là où on voit la liste de mes prochains invités. Mais il faut vraiment zoomer. Et donc voilà, c'est là-dessus que je prépare mais c'est mon outil pour préparer les visites dans les musées, enfin tous les streams d'une façon générale. Mon petit Mac que j'emmène toujours partout, qui est toujours dans mon sac, que je sors dans les taxis par exemple quand je suis transporté, parce que 20 minutes ou une demi-heure de taxi, bah, c'est 20 minutes ou une demi-heure de sport, c'est bien pratique. De sport, lapsus intéressant, de travail, et c'est bien pratique, c'est vrai que le sport me manque un petit peu. Et puis c'est là aussi que c'est de là-bas que je déclenche mes raids. Voilà, et systématiquement en fin de stream, on raid ici. Donc pour rigoler, je l'appelle mon ordinateur de raid. Il est vieux, mais il fonctionne encore. Il est un petit peu poussif, mais il fonctionne encore. Merci Noku, j'espère que je prononce bien. Merci beaucoup pour le gentil message que je viens de lire. J'ai pas eu la notif de début de live. Lionel, c'est vrai que ça marche pas toujours la notif. Mais content de t'avoir avec nous. Bien sûr, l'étoile rouge des comptoirs dit « S'informer, c'est aussi pouvoir lutter au quotidien. La démocratie, ce n'est pas une fois tous les 5 ans. » Syndiquez-vous, ajoute l'étoile rouge des comptoirs. Une démocratie, c'est l'une parmi d'autres et nombreuses conditions. Une démocratie, elle fonctionne bien, notamment si les corps intermédiaires, les corps représentatifs, le sont vraiment, le sont vivants, sont puissants. Et ça implique et intègre notamment les syndicats. Le taux de syndicalisation en France, il est assez faible. Et en vrai, c'est un problème. C'est un problème. Merci Victor pour le gentil message, c'est gentil. Je vous lis. La pratique des jeux vidéo, ce n'est pas abandonné. C'est mon gros dossier, c'est mon gros sujet. Et ça va arriver à la rentrée, je suis en train de bosser là-dessus. Peut-être qu'il y aura un petit teasing avant, en juin, il y aura peut-être des petites choses. Le Fuo Riclas Sport, merci pour les beats, c'est très gentil. Tu écoutes quoi dans tes écouteurs? J'écoute, je m'écoute moi. Pas parce que j'ai un melon énorme. J'ai un melon énorme. J'ai un ego gigantesque comme tous les présentateurs et comme tous les animateurs. Et mais en vrai, non, c'est parce que j'ai commencé ce métier en radio et je suis un maniaque du son. J'essaie d'avoir le meilleur son possible. Je suis assez content des dernières évolutions qu'on a apportées ici d'ailleurs au son. Et du coup, ben, j'écoute pour voir si ça va. Et puis de temps en temps, on va écouter des extraits de telle ou telle déclaration de politique ou extraits de films, par exemple. Demain, mercredi, sortie ciné. Et puis on est en plein festival de Cannes. Enfin, ça commence ce soir, cérémonie d'ouverture. On en parlera un petit peu. Et donc, ben, c'est juste pour vérifier ce que je vous envoie. Voilà. Mais je suis un petit peu un maniaque du son. Olivier Fustaillon, qui est sur ce stream et qui était dans la matinale de France Info avec nous ce matin, donc à la télé, hein, pas à la radio, c'est ce que je fais depuis 6 ans. Franchement, l'émission de ce matin, l'ambiance de France Info a l'air vraiment top. C'est toujours un plaisir de vous écouter lors des infos de 6h. Alors ça, c'est sur France 2 pour le coup, 6h, mais c'est vrai que l'équipe, elle est géniale et je la kiffe. Zora Benmiloud, qui vient de m'envoyer un message d'ailleurs, la présentatrice du JT. Hop, 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 une bonne nouvelle. Ouais, je leak. Ouais, je leak en direct. Attendez. Ah, je vérifie un truc. Alors, parce que Zora Benmiloud, c'est ma consoeur qui co-présente avec moi la matinale de France Info, que j'aime beaucoup humainement et professionnellement, que je connais depuis très très longtemps et que j'ai réussi un peu à faire venir à France Info dans l'équipe de la matinale quand on a cherché une présentatrice pour les JT. Et en fait, Zora, je lui envoie de la force parce que ce matin, elle avait un bon gros rhume, elle n'était pas en pleine forme. Mais elle a tout donné à l'antenne. Voilà, ça lui ressemble bien parce que c'est quelqu'un qui a un caractère très très fort. Zora, je l'adore. Et donc, j'avais encore une place pour l'hebdo Étienne de vendredi, donc 4 invités. Et j'ai demandé à Zora ce matin si elle voulait participer une nouvelle fois parce qu'elle est déjà venue 2 fois. Et a priori, c'est un oui, je dis a priori parce que elle me demande si c'est ce vendredi ou celui d'après. Je viens de lui répondre, je croise les doigts parce que je serais super content. Attendez, elle me répond en direct, c'est magnifique. Et c'est oui. Hop, 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 hop. J'ai presque envie de vous leak les 4 invités de l'hebdo Étienne de vendredi. Voulez-vous que je vous donne les 4, excusez-moi, je vérifie un truc, les 4 invités de l'hebdo Étienne de vendredi? Oui. Alors, je leak ou pas? Vous n'êtes pas trop nombreux, hein, vous êtes au début du stream, là, c'est vraiment, c'est un petit, on est entre nous, hein. C'est oui, c'est oui, c'est oui. Ah, je suis content pour Zora. Attends, je lui ai répondu, au moins. Oh, super. Voilà, je suis super content. Oui, je vous dis. Alors, il y en a qui savent déjà un petit peu. Ah, j'ai un tout petit, j'ai donné quelques infos déjà. Niku Manga, il a tous les jours. Et donc, du coup, il a une partie des infos. Voilà. Ah, c'est vrai qu'Étoile, ça aurait été super parce que Ryu, quand il était venu avec Zora à la maison, ça avait super bien fonctionné. C'est vrai, c'était très bien entendu. J'ai pas de retour de Camille Etienne, à mon avis, qui est super occupé avec la sortie de son premier livre. Voilà. Donc, c'est parti. Certains le savent déjà. Vendredi, il y aura Monsieur Poulpe. Voilà. Ça c'est calé, le retour, il est déjà venu au moins 2 fois, je le kiffe, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu parce qu'il a eu son spectacle qu'il jouait à Paris, son one man show qui a très bien fonctionné et qui a été relancé et du coup il était plus libre le vendredi soir, donc ça fait super longtemps. Donc Poulpe, confirmé parce que je l'avais annoncé mais mes invités ont souvent des plannings super chargés donc ça peut bouger et ça bouge souvent, c'est l'une des difficultés d'inviter 4 personnes à la maison tous les vendredis, c'est pas facile. Deuxième, Jiraya qui confirme aussi, voilà, sa venue, puisque pareil Jiraya il aurait pu aussi dire bah non finalement je ne peux pas, c'est oui encore, ok, donc ça fait Monsieur Poulpe, ça fait Jiraya. Troisième invité, bon ben il n'y a pas de surprise, c'est Zora Benmiloud, qui, non, Paloma Moritz, Nat, elle vient mais plus tard, elle est calée aussi, qui vient, ok, et il y a une invitée que je ne vous ai pas encore annoncée, et pour cause je l'ai calée la nuit dernière, c'est Carole Quinten. Voilà, la youtubeuse Carole Quinten. Voilà, et passionnée de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps qu'on se parle. Elle sera à la maison. Voilà. Villecroix, ça sent la parité pour calmer Twitter. Ici, on n'est pas sur Twitter, on est sur Twitch. Et non, ça n'est pas la parité pour calmer Twitter, puisqu'il suffit de compter le nombre de femmes que j'ai invitées depuis le début de cette émission en septembre pour arriver, en gros, à un peu plus d'une quarantaine pour d'invités femmes depuis septembre et un peu plus d'une cinquantaine pour les invités hommes. Alors, c'est vrai que c'est pas mon objectif, parce que l'objectif est... Moi, je vise plutôt la parité dans mes activités. Donc là, je ne suis pas tout à fait sur la parité que je cherche, mais ça fait quand même, de l'émission, à mon avis, de l'émission du magazine du rendez-vous de l'hebdo sur du talk sur Twitch qui reçoit le plus de femmes. Donc ce n'est pas une accélération sur la parité, puisqu'on y est déjà. C'est juste comme d'habitude, en fait. C'est une émission où on a déjà reçu trois femmes et un homme, donc il n'y a aucun souci de ce côté. Et puis de toute façon, je n'en fais qu'à ma tête, de toute façon. Mais je suis bien content. Je t'envoie plein de force, Alexandra, je viens de lire ton message, ainsi qu'à ton ami. Joli line-up pour ce vendredi, c'est cool, hein ? Sympa, hein ? Ça vous plaît ? Ah, voilà, Taya, qui suit régulièrement l'émission, sait effectivement que... voilà, il y a... Cette parité, elle est déjà présente dans l'émission. Ça vous va comme table ? C'est pas mal, hein ? Arnaud n'a pas entendu la quatrième invitée, c'est Carole Quinten. Beau plateau, on va se régaler. Ouais, je pense que ça va être vraiment sympa. C'est juste que le genre des invités n'est pas un critère, me dit Miliana. Alors oui et non, c'est-à-dire que à moi, à titre personnel, en tant que journaliste et animateur, notamment d'un jeu, moi je crois que la représentation des femmes sur les écrans, qu'ils soient télévisés, ces écrans ou les nouveaux écrans, YouTube, Twitch, TikTok aussi, mais en fait c'est important en fait. Donc moi c'est quelque chose auquel je suis sensible depuis déjà très longtemps. J'ai pas attendu les débats sur telle ou telle plateforme pour m'intéresser au sujet. C'est ainsi, par exemple, quand j'ai débarqué à Question pour un champion il y a 7 ans, que j'ai demandé et imposé la parité candidat-candidate, voilà, ce qui était pas le cas quand je suis arrivé. Donc ça, je l'ai mis en place et j'en suis très très fier. Et à mon petit niveau, effectivement, c'est ce que j'essaye de faire sur Twitch. Alors c'est ce que j'essaye, vous avez vu, hein, c'est pas 100% réussi, puisque j'ai un petit différentiel avec une quarantaine de femmes invitées depuis septembre et une cinquantaine d'hommes, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu plus de mal à trouver des animatrices ou des youtubeuses ou des streameuses ou des journalistes de femmes, voilà, que d'hommes, voilà. Mais on est en train de remédier à ça. C'est une question de visibilité, en fait. Bon, arrêtez de parler de ce sujet, parce que ce sujet a été largement abordé ces derniers jours par plein de passionnés et de spécialistes de la question sur Twitter. Si ça vous intéresse, tout est sur Twitter. Ici, on est sur l'actualité du jour. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y a Pizzou qui écrit « Est-ce qu'un modérateur peut me bannir du chat SVP ?» C'est extrêmement intéressant comme remarque. Qu'est-ce qui se passe, Pizzou ? D'accord. Ok, alors il y a Pizzou qui est très en colère et qui plutôt que d'aller faire un tour veut qu'on le banne. Évidemment, on ne va pas le bannir. Je pense qu'il faut que tu trouves la solution tout seul. Ok, alors je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais tu as l'air très en colère. Ok. En tout cas, merci pour la proposition que tu as faite il y a quelques jours sur Charlie Danger, parce que je suis en contact désormais. Il y a un truc qui t'a mis en colère, mais je ne vois pas quoi. Bon, j'espère qu'on va réussir à t'apaiser en tout cas. Le sommaire, tu ne l'as pas raté, Crotlax. On y va dans un instant. Ok. Est-ce qu'il y a Cheat Meal pour Hero pour accompagner notre soirée sur un plan gastronomique ? Je ne sais pas encore. Il faut que j'en parle à Eric. En fait, la difficulté pour en parler une dernière fois cette année, cette émission, donc là, elle s'arrête bientôt. Hein, il ne reste plus que 3 émissions. On aura fait une saison complète de l'Hebdo Étienne. Et c'est vrai que l'une des difficultés, ça a été de trouver chaque vendredi, pour revenir sur l'actualité de la semaine, trois invités, puis quatre, parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que quatre, c'était cool. Et comme moi, j'aime beaucoup le côté artisanal de Twitch, où je fais tout, où je choisis les thèmes, où je choisis aussi les invités, ça, je ne le sous-traite pas, c'est quelque chose que je veux faire. Bon, en vrai, c'est un énorme travail. Donc, on a compté ensemble, la dernière fois, c'est une centaine d'invités déjà depuis septembre, en essayant de faire les meilleurs plateaux possibles, en n'invitant que des gens que je trouve intéressants et sympas, puisqu'on est à la maison. À la base, j'invite que des gens que j'aime bien. Donc, c'est un énorme travail qui est super agréable, qui m'a mis en contact aussi avec plein de gens. Mais qui est difficile, notamment parce que les gens sont très occupés et parfois la veille, deux jours avant, trois jours avant une émission, eh bien, il y a des annulations de gens qui ont des impératifs professionnels et il faut que je trouve quelqu'un en urgence de sympa, de potentiellement intéressant, et voilà. Donc c'est un gros travail, et je suis à la fois triste que la première saison arrive à son terme et un peu content aussi parce que ça va me faire des vacances de pas stresser chaque semaine pour trouver les invités qui vont bien, quoi. Bon, là c'est calé pour André, c'est cool, et c'est pas mal calé pour les deux dernières émissions qui suivront après, puisque je crois que la quatrième, enfin la dernière, elle est calée, et celle entre les deux, ça devrait aller aussi. Passer en bimensuel, ce serait la plus simple solution. Ouais, non, pas sur une émission d'actu. Là, j'essaie d'être là au quotidien pour suivre l'actualité au quotidien avec vous. Une émission sur l'actualité, hein, avec de plateau, un talk, on va dire. La hebdo, c'est bien. Bimensuel, tu prends déjà un peu de recul par rapport à l'actualité. J'aime bien l'idée que chaque semaine, il y ait ce rendez-vous, quoi. Voilà. Donc, je vais essayer de garder ça. L'année prochaine, si je continue à avoir un partenaire, un parrain, un sponsor pour cette émission qui demande un peu de moyens, si je vais la maintenir en hebdo, quoi. Et toujours avec quatre invités. Oh non, on n'a pas le temps. French Guillaume me dit top 3 les animateurs ou animatrices télé selon toi, Sam, au niveau de la gentillesse et de la sincérité. Non, si on parle là-dessus, on va y passer des heures. Allez, je lis encore un ou deux messages et puis on y va avec un joli petit sommaire. Ouais, j'ai vu la faillite de Vice. J'ai failli vous mettre le sujet de côté, Baron Noir, mais ouais, j'avais pas mal d'articles intéressants ce matin. Je pense qu'on va y revenir dans les prochains jours. Là. J'avais un article ce matin dans les Échos, je crois, dans le Figaro Écho là-dessus, qui était vraiment intéressant. La faillite de Vice et la faillite, en fait, pour ceux qui connaissent pas Vice, de tous ces médias, enfin la faillite, les difficultés financières de tous ces médias, ces nouveaux médias audiovisuels sur Internet. Médias d'information qui ont fait un pari particulier, qui est le pari d'informer tout en étant gratuit et en se finançant essentiellement par la pub. Et en fait, avec la baisse des annonces publicitaires ces derniers mois, en fait, ben, le modèle économique de ces médias, dont Vice, on a pris un coup. Voilà, donc il y avait un article intéressant là-dessus, mais que je trouve un petit peu technique, un petit peu écho. Donc je vais surveiller les journaux dans les prochains jours et je vous trouverai un autre article là-dessus. Merci. Alors, pardon pour les oreilles chastes, mais je me suis habitué à lire ce pseudo. C'est phonétiquement, c'est très problématique. Sauf qu'au niveau de l'écriture, pas du tout, puisque j'ai un viewer, une viewer, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire viewer, qui nous suit, qui nous regarde, qui vient de prendre un quatrième mois d'abonnement et dont le pseudo est Mag, M-A-G, Ross, R-O-2-S, Mag Ross, bon, Mag Ross, Beat, B-E-A-T. Bon, Mag, pas de problème. Ross, pas de problème. Beat, pas de problème. Mais évidemment, lu phonétiquement et très très vite, ça donne autre chose. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être plutôt un viewer qu'une viewuse. Je me suis habitué, mais bon, à chaque fois, je me dis, mais s'il y a des âmes sensibles ou des enfants et des mineurs, bon, c'est gênant. Mais bon, ça sub, quoi. Je te remercie. Pasta Bretzel, c'est beaucoup plus facile à lire. Merci beaucoup pour le 14e, pour ton 7e mois d'abonnement et pour le Prime. C'est peut-être un petit peu prétentieux, ce pseudo, je ne sais pas. Ouais. La première fois que je l'ai lu, je pense que je l'ai lu comme ça, phonétiquement. Je me suis... Voilà. Maintenant, c'est... Pardon. Ne vous inquiétez pas. J'ai rendez-vous chez le médecin bientôt, parce que ça fait bientôt 3 mois que je tousse comme ça. Je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. La santé est un petit peu fragile, mais on va se requinquer à partir de la rentrée prochaine. On y va ? Djok demande comment j'ai réparé le néon derrière moi, Samuel Etienne, que j'ai fait casser, que j'ai fait tomber un matin et qui s'est cassé en deux sous vos yeux en direct. Eh bien, avec de la colle. De la colle toute bête. En fait, j'ai retrouvé, sur le conseil d'ailleurs d'un streamer, une plaque en plexi transparente que j'avais à la maison, petite. Je l'ai mise derrière, voilà, j'ai mis de la colle, j'ai posé des dictionnaires dessus et puis ça a tenu. Faut pas trop la bouger, hein. C'est Inforéa, d'ailleurs je fais sa pub parce que c'est un gars super. C'est Inforéa, le streamer, vous savez, qui répare en direct des tablettes, des PC, notamment pour les offrir à des associations et à des écoles. C'est un super boulot. Inforéa, Inforea. Voilà, il stream quasiment tous les jours. Et c'est un super taf. Et donc c'est lui qui m'a donné ce conseil de la plaque en plexi avec de la colle. Bon, en vrai, il m'avait donné une rêve de colle, une vraie colle de pro. Pour ce genre de truc, j'ai mis ce que j'avais à la maison et ça a fonctionné, quoi. Alors pour le coup, c'est pas un vrai néon, bien sûr, hein, puisque si les tubes de néon s'étaient cassés, ça aurait été impossible à réparer. En fait, c'est des petites. Quand ça s'est cassé, je m'en suis rendu compte parce que je pensais que c'était un néon. En fait, ça fait genre néon et en fait, ce sont des LED. C'est des petites lumières LED qui sont cachées derrière les petits tubes là. Voilà. Go. Je vais juste prendre un petit peu de spray pour les poumons là parce que je sens qu'il y a une petite irritation qui fait que je vais tousser sans arrêt. Ça va être très désagréable pour vous. Et puis on fait le sommaire, des choses vraiment intéressantes. Je vous mets donc 30 secondes, une minute de musique. Je vous mets un nouveau titre. Et dans 30 secondes après le petit spray, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le truc comme ça là, eh bien je vous fais la petite lecture des journaux, ok? Bougez pas, à tout de suite. Mais j'arrive dans 30 secondes, hein, ok? Hop. Impeccable, j'adore cette chanson que je viens de remettre mes écouteurs, là je vous la cale pour la petite pause café de tout à l'heure. Ouais, c'est bon, petit spray là, un petit corticoïde local en fait, c'est à peu près ça. Et ça va m'ouvrir les, non pas les chakras, mais les poumons. Prêt ? J'attends un petit go pour le sommaire et puis on y va. Alors après, le problème c'est qu'il faut rincer la bouche. Si vous rincez pas la bouche après ces corticoïdes locaux là, après ça fait des aftes ou des trucs comme ça, quoi. Donc je coupe mon micro et je me fais un petit lavage de bouche au café. Bougez pas. Ok, putain, je pourrais pas faire ça à la télé, hein. Ouais, je sais, c'est dégoûtant. En fait, si vous faites pas ça, après vous avez des trucs dans des petits, ouais, comme des aftes un petit peu, quoi. C'est voilà. Ouais, désolé. Bon, petit sommaire. C'était Steven, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Ilm Miji, merci pour le 4e mois d'abonnement. Petit dragon vert de rage, merci pour l'abonnement offert à la petite potière. Ezekielos, merci pour le 10e mois d'abonnement. Et j'en profite pour remercier les modos pour leur super boulot. Anonyme 31. Captain McBernick, Francis, Julo, 18, LG Zax et Petit Dragon Vert d'Orage que j'évoquais à l'instant. Merci d'être là ce matin. Merci Lille Dali, 84 pour le Prime. Et maintenant, on y va. De quoi je vais vous parler ce matin ? C'est ici le sommaire, c'est-à-dire que je vous donne l'essentiel en 10 minutes. Et après, on y revient un peu plus tranquillement. C'est pour ceux qui n'ont pas 2h, 3h à nous consacrer. Regardez. Alors, hier soir, sur TF1, le président de la République, Emmanuel Macron, est donc venu parler aux Français. Alors, c'est intéressant parce qu'on en a parlé hier. J'ai appelé TF1 en direct pour ceux qui étaient là. Enfin, j'ai envoyé un texto pour savoir si je pouvais acheter les droits de diffusion pour le streamer hier soir et regarder avec vous. Ça aurait été sympa. Et puis, en direct, on a appris que TF1 ne vendait pas les droits de diffusion de cette exclue et voulait garder le côté exclusif, et donc ça n'a été regardable que sur TF1, pas sur une autre chaîne de télé et pas non plus sur YouTube ni sur Twitch. Donc c'était impossible de streamer ce contenu, sauf illégalement bien sûr, mais ça ne se fait pas. Donc on l'a pas fait, mais on a regardé bien sûr. Et les journaux en parlent beaucoup ce matin, donc qu'est-ce qu'il a dit, sur quel ton, est-ce qu'il y a des annonces? On va en parler un petit peu ce matin, on peut en parler pendant des heures, mais on va en parler un petit peu. Macron choisit la stratégie de la saturation médiatique, ça c'est l'avis du Figaro. Bob Zer en rigole, ça fait longtemps qu'il ne s'était pas exprimé, ça manquait effectivement, donc là il parle beaucoup, souvent, contrairement à la stratégie qu'il avait adoptée pendant son premier mandat, c'est assez intéressant. En intervenant tous azimuts dans les médias, le chef de l'État s'est éloigné, regardez, de sa théorie de la rareté de la parole pour tenter de tourner la page de la séquence compliquée des retraites. On lira ce dossier. Le Figaro qui nous explique. C'est marrant parce qu'il y a Foliobat F8 qui dit « Ah, le Figaro qui critique Macron ». En fait, si tu étais un lecteur quotidien du Figaro, tu verrais que le Figaro critique souvent le président Macron, en fait, ce qui est assez intéressant. Quasiment tous les jours en fait. Donc le Figaro nous rappelle que pendant le premier quinquennat, le président Macron a plutôt brillé par une parole rare, notamment sur la scène intérieure. Et en ce début de deuxième mandat, supposer qu'après un an on soit encore en début de deuxième mandat, eh bien il multiplie les prises de parole. Cyril n'en a pas le sentiment. Cyril nous dit la rareté de la parole, mais il est dans les médias tous les jours depuis 6 ans. Alors les médias en parlent tous les jours, mais lui, ses interventions, notamment en télé, étaient rares avant, et là c'est quasiment sinon tous les jours, mais c'est très souvent. Donc le Figaro analyse ça, on verra. Le Parisien fait le même constat, regardez, voilà. Voilà, Captain McBernick, pour répondre à la question du viewer qui trouvait étonnant que le Figaro critique Macron. Captain McBernick nous propose son analyse et est assez juste en nous disant le Figaro, c'est plutôt les Républicains qu'ils soutiennent en termes d'idées. Alors, le Figaro n'est pas l'organe de presse des Républicains, mais au niveau de la philosophie, de la ligne éditoriale, c'est vrai qu'on peut dire que le Figaro se rapproche assez des idées d'un parti comme LR, aujourd'hui les Républicains. C'est vrai que c'est un journal du coup qui a un regard assez critique sur la politique du président Macron. Macron sur tous les fronts, c'est la une du Parisien qui fait le même constat. Regardez, le président multiplie déplacements et interventions tous azimuts. Je crois que le Figaro utilisait le même mot d'ailleurs. Ouais, exactement. Comme lundi soir sur TF1 où il a annoncé des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Alors là, on va prendre un petit peu le temps là-dessus. On en a parlé un petit peu les jours derniers. Baisse d'impôts. Baisse d'impôts pour les classes moyennes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle baisse d'impôts? Est-ce que c'est vraiment une baisse d'impôts? Combien? Comment? Qui sera concerné? Quand? Vous savez quoi? On n'a aucune réponse à toutes ces questions. Donc, sans être médisant, on va dire que cette baisse d'impôts désolé, du président Macron à destination des classes moyennes, c'est un petit peu flou encore. Mais on se penchera là-dessus. Pour moi, c'est l'article le plus intéressant du jour. Voilà, c'est dans le Parisien, toujours, pages 10 et 11, et on prendra le temps pour le lire. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et contre la transphobie. Moi, j'ai envie de dire que c'est plus que ça. C'est la journée mondiale de lutte contre toutes les LGBTI-phobies, voilà, et pas seulement la journée de lutte contre l'homophobie. Et là, il y a une double page que je trouve très bien faite sur le sujet, qui donne notamment la parole aux jeunes qui ont été ou sont maltraités par la société parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont trans, notamment par la société ou par leur propre famille. Voilà. Et donc on se penchera sur ce dossier que je trouve très bien fait à la veille de cette journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et je pense qu'on viendra également sur le sujet. Voilà. Ce matin, on a reçu la coprésidente de SOS Homophobie, c'est ça? Ouais, non. Comment s'appelle l'association? Attendez, j'ai un doute. Je préfère... Encore une fois, je préfère vérifier plutôt que raconter des conneries. Je crois que l'association s'appelle SOS Homophobie. Je vérifie. C'est ça, vous connaissez l'ASOS ou pas? C'est ça? Je dis pas de bêtises. Je vais vérifier parce que... Je préfère vérifier que vous racontez des carabistouilles. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Hop, voici l'ASOS. Voilà. L'association SOS Homophobie, qui nous avait réservé ce matin à France Info, eh bien, la présentation de son enquête, de son rapport annuel sur l'homophobie et la transphobie en France en 2023. Voilà. Donc, on a reçu cette coprésidente et c'était un moment très très fort, puisque au-delà des chiffres dévoilés par ce rapport, donc publié ce matin, je pense que vous allez entendre parler dans les médias, eh bien, elle nous a aussi donné des cas concrets. Au-delà des chiffres, en nous parlant de telle personne, en la nommant, en nous donnant son prénom et en racontant des vraies histoires de discrimination au quotidien. C'était un moment super fort. Je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir en replay d'ailleurs, c'est dommage. Je crois pas que ce soit en replay la matinale de France Info. Pour le coup, je vous montre jamais des extraits de la matinale de France Info, mais... parce que vous pourriez m'accuser de faire la promotion du truc. Mais en vrai, ce moment-là, j'aimerais bien vous le montrer si je le retrouve, parce qu'elle était vraiment super. Mais je crois pas que ce soit en replay. Le I de LGBTI, c'est intersexe. Ouais, exactement. On en a parlé d'ailleurs avec cette dame ce matin. Il y a des extraits. Ah, des extraits sur Twitter. Bah oui, mais c'est des extraits. Ouais. On en a parlé 5 ou 6 minutes ensemble. Donc là, si on va sur Twitter, on va avoir 30 secondes. Ça n'a aucun intérêt. Twitter, ça va aller. Hein. Alors, Twitter, c'est bien plus souvent la réduction de la pensée qu'un lieu de débat et d'échange, vous le savez, quoi. Donc là, j'ai pas envie de voir 30 secondes de quelqu'un qui nous a parlé pendant 6 minutes d'un sujet aussi important. Regardez, là, je suis sur les programmes de France Info. Je crois pas qu'il y ait la matinale. Ah, si. Si je clique là, est-ce que j'ai des replays? Ça, c'est le JT de 7h. Elle était l'invitée du journal de 7h. Elle était l'invitée du journal de 7h. Ah bon, on l'aura peut-être. Attendez, je regarde. Alors, je vais un peu plus loin. Ah oui, elle est là. Oh ! Ah ouais, super. Voilà.
Avec nous dans la matinale de France Info, on va en parler dans un instant dans les titres avec Zora, mais je voulais saluer notre invitée qui vient de nous rejoindre, Véronique Godet, coprésidente de SOS Homophobie. Un grand merci, puisque vous dévoilez ce matin, vous l'avez avec nous, le rapport annuel de votre association, SOS Homophobie, sur les LGBTI-phobies. Merci beaucoup d'être avec nous. Les titres que j'évoquais à l'instant de l'actualité de ce jour, les voici avec Zora Benminoud.
J'ai été très touché en fait par cet échange avec cette dame que j'ai trouvé... C'est très frustrant d'ailleurs, j'ai commencé en off avant que l'émission ne commence, que le JT ne commence, parce que c'était le journal de 7h dans une matinale qui va de 6h30 à 8h30, 6h même avec France 2. Et donc j'ai commencé par lui dire, on a 4-5 minutes ensemble, c'est super frustrant d'avoir aussi peu de temps, mais c'est la loi d'un média audiovisuel où on a très très peu de temps pour parler de ce sujet si important, mais on va essayer de faire au mieux. Et du coup, on a passé un ou deux petits reportages juste avant, dont un reportage d'ailleurs sur ce rapport. Et pendant la minute que durait le reportage, à chaque fois, on échangeait très très vite tous les deux en disant bon, alors, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Quels sont les messages importants que vous voulez faire passer? Et on a réussi à se caler comme ça très 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 rapidement sur les messages importants qu'elle voulait faire passer. Elle avait notamment préparé des exemples concrets avec des situations de discrimination vécues par notamment des jeunes gens en France, voilà, pour en raison de leur situation. Et je l'ai trouvée excellente. Voilà. Donc c'était un moment court mais intense. Quoi. Donc voilà. Donc bah, je suis content de voir cet extrait. Du coup, on l'écoutera. Voilà. Je continue mon petit sommaire. Hop. Donc on a vu Le Parisien. Il y a peut-être autre chose dans Le Parisien que j'ai oublié de vous dire. Ouais. On va parler un petit peu de basket. On ne parle pas beaucoup de sport ici. Alors. Alors vous êtes beaucoup. C'est mignon d'ailleurs, mais c'est sympa de participer un petit peu à mon travail. Si elle est si formidable, pourquoi tu ne l'inviterais pas dans l'hebdo Étienne? Alors pas dans l'hebdo Étienne, non, pourquoi? Parce que c'est le concept en fait. Bon, alors après ce concept on peut en débattre, mais c'est le concept que j'ai choisi. Le concept de l'émission du vendredi, c'est quatre personnes qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas les spécialistes de la spécialité que vous voyez toujours sur toutes les chaînes d'info, qu'on voit un petit peu en boucle, hein, des gens qui donnent un petit peu leur avis sur tout et rien. Surtout et qu'on ne leur a pas demandé d'ailleurs. Et donc ça existe depuis des années, j'ai pas envie de le faire. Et donc le concept de l'émission du vendredi, c'est de recevoir des journalistes de ce milieu que je connais bien, mais aussi des créateurs de contenu de YouTube, de Twitch, donc des streamers, des YouTubeurs, des journalistes, de mélanger ce petit monde, ce qui pour le coup, bah, à mon avis, n'est fait par personne en France. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'émissions qui chaque semaine mélangent les journalistes et les streamers et les youtubeurs. Donc moi, c'est mon concept, parce que je pars du principe que sont des regards différents, ce sont des parcours différents, ce sont des centres d'intérêt différents, ce sont des sensibilités différentes. Donc j'aime bien ce mélange. Voilà. Et ça n'est pas une émission où je reçois tel ou tel spécialiste, un spécialiste de l'Ukraine, hein, un spécialiste, par exemple, de la question LGBT, un spécialiste de l'économie pour parler de dernières annonces du président Macron. Parce que ça n'est pas un JT, tout simplement. Ça n'est pas un JT, ça n'est pas une émission qu'on pourrait trouver sur une chaîne info. C'est un débat de 3 heures, très détendu au niveau du ton, très chill, voilà, pour ne pas rajouter au côté anxiogène de l'information, parce que l'info est éminemment anxiogène. Et pour demander à des gens qui, justement, ne sont pas forcément des spécialistes ni de la réforme des retraites, ni de tel ou tel sujet, eh bien ce qu'ils pensent du monde dans lequel on vit. Et moi, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Ponce, par exemple, sur la réforme des retraites. L'ami Ponce, quand il est venu à la maison parler de la réforme des retraites, eh bien, il nous a un peu surpris par sa prise de position qui était assez forte, quoi. Moi, ça m'intéresse d'avoir l'avis d'une journaliste qui ne connaît pas ou alors très très mal l'univers de Twitch et de YouTube, et qui vient poser ses questions, vous poser des questions sur cet univers. Ça m'intéresse d'avoir l'avis de Jean Massier, passionné de politique, sur le draft de la NBA, voilà. Et peut-être que Jean, ça l'intéresse aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est mon concept. Bon, on l'aime, on l'aime pas, on regarde pas, vous n'êtes pas obligé, mais c'est mon concept. Voilà, c'est l'idée, voilà. Constatant que cette proposition, vous la trouvez pas ailleurs, quoi. Donc c'est mon idée que je propose chaque vendredi. C'est pour ça que cette dame que j'ai trouvée passionnante ce matin, a priori, je vais pas l'inviter. Je pourrais en plus, parce que peut-être qu'elle va s'intéresser aux autres sujets qu'on va lui proposer. Mais en tant que telle, ce n'est pas une émission où j'invite des spécialistes, comme il peut exister déjà à la télé, pas mal, quoi. C'est autre chose que je propose. Après, on aime, on n'aime pas, on regarde pas, mais ça, c'est... Hein. Et quoi d'autre encore voilà. En revanche, c'est vrai que ça pourrait être quelqu'un que j'invite à la maison pour une rencontre Étienne. Une dame que j'invite 3 heures à la maison pour qu'on parle de son parcours, de son combat, de l'actualité de ce sujet, de la lutte contre l'homophobie et la transphobie en France. Ça, oui. Hein. Ça, des rencontres, j'en fais régulièrement. Ça, c'est une bonne idée, par contre. Hein. Voilà. Allez, on continue, parlons petit sommaire. Donc, pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu au basket et surtout à cette espèce d'histoire incroyable autour de Wembanyama, qui est ce basketteur français immense par la taille, mais surtout par le talent, Victor de son prénom. Et donc, il y a une nuit, pour être tout à fait précis, très importante pour lui, pour sa carrière, pour son avenir. C'est cette nuit, si vous ne connaissez pas l'histoire, elle est géniale. Un mois avant la draft, la loterie, hein, de la NBA. Pourquoi il dit un mois? Ah oui, c'est ça. Oui, la draft, c'est dans un mois, mais la loterie, c'est cette nuit. Un mois avant la draft, la loterie qui a lieu dans la nuit de mardi à mercredi, donc c'est cette nuit, détermine l'équipe qui pourra choisir le prodige français. Puisqu'en fait, Wembanyama, il va partir aux États-Unis, ça c'est sûr, il n'y a aucun suspense. Mais dans quelle équipe? Ça va jouer dans la draft dans un mois, mais avant, il y a la loterie, et vous verrez l'importance de cette loterie tout à l'heure, la loterie qui est cette nuit. L'histoire est géniale. Je trouve que le Parisien a assez bien raconté cette histoire. Sachez qu'il y a une page, deux pages également dans l'équipe ce matin sur ce sujet. On lira aussi les échos. Je continue le sommaire avec, bon, effectivement, le papier des échos sur ces annonces du président Macron sur les baisses d'impôts. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a vraiment des baisses d'impôts qui vont venir? À quel niveau? À quelle hauteur? Pour qui? Quelle forme ça va prendre? Je pense que c'est un sujet intéressant. Et puis, alors, une petite infographie qui m'a aussi intéressé. On parle quasi quotidiennement de la guerre en Ukraine ici. évidemment. Et là, j'ai trouvé un truc tout simple qui va nous prendre quelques secondes à lire, mais que je trouve intéressant, qui est le top 10 des pays engagés pour soutenir l'Ukraine. Quels sont les pays qui, économiquement, militairement, se sont le plus mobilisés pour soutenir l'Ukraine dans la guerre contre l'envahisseur russe? Eh bien, on a un petit tableau dans les échos, voilà, et qui est assez intéressant, pour, notamment pour situer la France par rapport aux États-Unis et surtout par rapport à nos voisins européens. Ça prendra pas beaucoup de temps, mais je trouve que l'info est intéressante. C'est pas terminé. Vous voyez que il y a ici une une de la Croix sur le Festival de Cannes qui commence ce soir. La une de Libération ce matin était aussi consacrée au Festival de Cannes, dont la cérémonie d'ouverture est ce soir. Ce sera à suivre en direct à partir de 18h sur France Info, d'ailleurs. Je vous rappelle que France Télévisions, depuis 2 ans, est le partenaire du Festival de Cannes. Et pourtant, je ne vais pas vous lire de papier sur le Festival de Cannes ce matin. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas trouvé d'articles qui m'ont passionné sur la question. Mais ce n'est que le début du festival, donc on en parlera dans les prochains jours. En revanche, je vous lirai cet éditorial sur la Turquie, sur la présidentielle. En Turquie, le premier tour donc a eu lieu dimanche et il y a eu une surprise. C'est-à-dire que de l'avis général, notamment en regardant les sondages, eh bien, c'est l'opposition au président sortant, Recep Tayyip Erdogan, qui devait arriver en tête, hein, de plusieurs points, l'opposition qui était favorite pour gagner cette présidentielle, ce qui était vraiment une page qui se tournait en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pas ça. C'est-à-dire que, oui, il y a un deuxième tour. Je crois pour la première fois, je ne suis pas sûr que Erdogan ait participé à beaucoup de deuxième tours. Il est au pouvoir depuis très longtemps. Oui, il y a un deuxième tour, mais aujourd'hui, le favori, du coup, à sa propre succession, eh bien, c'est Erdogan. Voilà, parce qu'il est arrivé en tête au premier tour et ça va être assez compliqué pour l'opposition de revenir. Pourquoi ? Pourquoi ce résultat ? Pourquoi l'opposition n'est pas passée devant comme attendu, comme prévu ? On lira l'édito. Tiens, il y a Quetzalcoatl qui nous dit que c'est la première fois depuis 20 ans qu'il y a un second tour. Il y a Abrakor qui dit même que c'est le premier second tour de l'histoire de la République turque centenaire. Alors, première fois depuis 20 ans pour Erdogan, peut-être, et peut-être première fois tout court pour l'histoire de la République turque. Alors, peut-on vraiment parler d'élections en Turquie ? Est-ce vraiment une démocratie avec un président depuis 20 ans au pouvoir ? Demande Mastermind. On lira cet édito de La Croix que je trouve vraiment extrêmement éclairant. Et puis, on finira. Regardez d'ailleurs la une de l'Humanité, c'est sur cette présidentielle en Turquie. Vous voyez Erdogan, donc le président sortant. Et on finira avec. Désolé, hein, j'ai une petite santé qui part en sucette là, mais. Ça n'est rien de très grave. Ça n'a rien de très grave. J'ai juste une voix un peu de Barry White. Ça va se réparer bientôt. Oui, une double page passionnante sur ce qui va se passer à l'Assemblée bientôt sur la réforme des retraites, parce que ça n'est pas terminé. Le président Macron, si vous l'écoutez hier sur TF1, il vous dit que c'est terminé, que le débat sur la réforme des retraites est terminé et que maintenant il s'agit de l'appliquer. Il y a une étape qui arrive à l'Assemblée bientôt, là c'est le 8 juin. Où les députés vont se pencher sur une proposition de loi qui vient d'un groupe à l'Assemblée qui s'appelle le groupe centriste LIOT, L-I-O-T, et qui est une proposition de loi qui va être proposée aux députés pour quoi faire ? Rien de moins que annuler la réforme des retraites. Vous allez me dire, c'est pas possible ? Je vais dire, si, c'est possible. Enfin, c'est possible que cette proposition, un, soit présentée, deux, votée. Sauf qu'après, je vous expliquerai quelques petites subtilités qui font qu'en fait, comme ça ne passera pas à la rampe du Sénat, ensuite, eh bien, cette proposition de loi n'a aucune chance de s'appliquer. N'empêche que, sur un plan politique, au niveau du symbole, une proposition de loi, donc issue de députés, ici, Lyotte, qui viendrait invalider la réforme des retraites, ce serait quand même un coup dur. Un coup dur pour le pouvoir, pour le président Macron. Voilà. Et du coup, ils sont inquiets. Et regardez ce titre de l'Humanité. La Macronie s'apprête à sortir l'article 40 de son chapeau pour peut-être, empêcher l'examen de cette proposition de loi. Donc, est-ce que c'est possible, ça ? Qu'est-ce que c'est que cet article 40 ? Suspense intolérable. Je vous lis ça tout à l'heure. C'est, en vrai, c'est super intéressant. Pas mal ce matin, hein ? Vous en pensez quoi ? Il y a des trucs plutôt cool, hein ? Le sommaire, ça vous va, là ? Quelle heure ? 55 minutes, on s'est dit bonjour, on a fait un sommaire, on est bien. Oh pardon, je suis désolé. Le pire c'est que je vais mieux, hein. Ça s'entend pas, mais je vais mieux, hein. Je vais vachement mieux. Tiens, ah j'ai encore baissé d'un ton. Alors, c'est quoi l'article 40, je vais vous raconter. C'est quoi Il y a Yam Kilian qui arrête pas de mettre des petits dessins, mais j'arrive pas à les identifier, mais c'est banni tout de suite par Nightbot en fait. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ces petits dessins là? Est-ce que c'est coquin, c'est cochon, c'est quoi? Je n'arrive pas à voir. C'est pas très très bien défini, je suis désolé. Kilian, donc j'arrive pas à me rendre compte si c'est de la cochonceté ou de l'humour, ou, parce que c'est vraiment très mal dessiné. Hein. Tu dessines pas très bien en vrai. Hein. Pas ce que c'est. Bon, du coup, t'es banni automatiquement pour 600 secondes par Nightbot. Du coup, tu reviens, tu le remets. Mais si tu pouvais dessiner plus pour qu'on se rende compte si c'est cochon ou drôle, ou je sais pas, ça, c'est vraiment pas terrible. Quoi. Ah oui, donc c'est un pénis, c'est un phallus, ok. Ah ouais? Mais non, c'est pas terrible. Hein. Bon. Bon, alors, donc du coup, c'est moi qui vais te faire un petit ban maintenant. Pff. Ah, tu t'es pris un ban déjà. C'est un ban provisoire. Bon, enfin, les modos s'en sont occupés, quoi. Ouais. Ah, c'est un pénis. Pff, c'est super mal dessiné. Hein. Pas terrible. Hein. Vous l'avez vu? C'est pas très bien. Hein. Vous trouvez ça bien dessiné, vous? Pas terrible. Hein. Oui, si tu dessines des pénis, dessine-les bien, s'il te plaît. Hein. Comme dit Jack Dalton, parce que bon, pour pouvoir te ban proprement, encore faut-il que tu dessines proprement. Hein. C'est vraiment pas très très bien fait. Hein. Ouais. Moi, j'avais cru que c'était un. Je sais pas, une grue, un chantier, je sais pas. Aucune idée de ce que c'était, quoi. Merci Lady Amber pour le 14e mois d'abonnement, Mr. Fred Bull pour le 10e mois, Lidali 84 pour le Prime. Pendant que je lisais le sommaire, ben ça, il y avait des subs qui tombaient. Merci beaucoup à tous les trois. Bon, on lit tous ces journaux ou pas, hein? Il ferait mieux de prendre une photo. Bah oui, Bobzer, quand on dessine aussi mal, prends des photos en vrai, hein. Ce sera mieux, hein. Mais, vous n'étiez pas sur France Info il y a à peine un quart d'heure? Non. La matinale de France Info se termine à 8h30. Le temps de rentrer, en général, je lance le stream vers 9h45. En revanche, de façon un peu exceptionnelle, on ira écouter un extrait de la matinale de France Info, puisque je recevais ce matin la co-directrice de SOS Homophobie à la veille de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, notamment. Et j'ai trouvé cette femme assez extraordinaire. Donc on ira écouter ce petit extrait qui dure 4-5 minutes. Voilà. Où en sommes-nous dans le sommaire? Clément, c'est passé. Ça vient de se terminer, donc tu n'es pas en retard, on va lire tous ces journaux. Monsieur Demesmaker qui dit « Ma mère regarde, vraiment c'est gênant cette immaturité. Madame la maman de Monsieur Demesmaker, pardon pour cet esprit potache. » Ici on rigole un petit peu, mais on sait être très sérieux aussi. Mais c'est ce mélange que je trouve assez sympa. Quoi. Pardon pour les talents de dessinateur de certains ici, c'est vraiment pas terrible. Quoi. Ça arrive assez rarement en fait. J'en ai pas souvent, c'est vraiment genre c'est deux fois par an, voilà. J'en ai au tout début quand je suis arrivé, puis là j'en ai plus vraiment trop. Donc soyez rassurés, madame, en général ça se passe bien quoi. Est-ce qu'on y go? Est-ce que j'ai un yes?
Yes.
Est-ce que j'ai un yes?
Yeah baby.
Oh, j'adore ce truc. Ouais, c'est bon. Oui. Ouais. Ok, c'est parti. Yeah, baby! Allez, on commence par quoi? On commence doucement, on s'échauffe, hein, histoire de ne pas se claquer un truc au cerveau, quoi, ce serait dommage, avec la prestation du président Macron hier soir sur TF1. Pour ceux qui étaient là avec nous, on a même essayé d'acheter les droits à TF1, ce que j'ai déjà fait dans le passé, acheter des droits de diffusion à des chaînes de télé pour pouvoir les streamer. Quand on les a appelés hier, quelqu'un de TF1 qui m'a répondu très gentiment et très rapidement, on nous a expliqué que ce serait une exclusivité TF1 et que ça pouvait pas être diffusé par une autre chaîne de télé en même temps quoi, et intégralement, ni par un youtubeur ni un streamer. Ben, on s'est dit c'est pas grave, on va en parler demain matin, ce que nous faisons maintenant. Macron choisit la stratégie de la saturation médiatique. En intervenant tous azimuts dans les médias, le chef de l'État s'est éloigné, nous explique Le Figaro de sa théorie de la rareté de la parole pour tenter de tourner la page de la séquence compliquée des retraites. Là, c'est le film de Maïwenn, Jeanne Dubarry, qui est présenté à Cannes. C'est autre chose, hein. Ça n'est pas du tout, ça n'est pas une critique du pouvoir macroniste qui serait de type royaliste, quoi. Genre, hein, trop descendant, quoi. Trop vertical. Lisons. Il avait théorisé la rareté de la parole présidentielle lors de sa première élection en 2017. Depuis, la stratégie médiatique du président Macron a considérablement évolué au point de passer de la parole rare, premier quinquennat, au silence rare. Aujourd'hui, c'est quand il ne parle pas, le président Macron, que c'est exceptionnel. En moins de 6 semaines, Emmanuel Macron a, écoutez bien, accordé de très longues interviews à Pif Gadget, oui, aux Parisiens, à Politico, à Challenge, au groupe de presse britannique régional EBRA, au Financial Times, FT pour les intimes, à l'Opinion, enfin aux 20h de TF1 hier soir, et avant ce dernier à un 13h sur TF1 et sur France 2 également. D'un excès à l'autre, estime Le Figaro, de trop de silence pendant le premier quinquennat, termite, merci beaucoup pour le troisième amendement, à trop de bruit, estime Le Figaro pour le deuxième. Comme pour refermer une séquence qu'il avait pourtant lui-même ouverte fin avril, estimant que son erreur avait été de ne pas être assez présent sur la question des retraites. Après la promulgation de la réforme des retraites, après l'utilisation du 49-3, le président Macron avait fait, exprimer ce regret. Il a dit « Ah, mais peut-être que j'aurais dû plus m'impliquer sur la réforme des retraites ». Il a explicité cette pensée à plusieurs reprises depuis, quand on lui demande « Mais pourquoi, comment expliquez-vous que une majorité de la population soit opposée à cette réforme des retraites ?» L'un de ses arguments, c'est « On l'a mal expliqué ». Pas, c'est une mauvaise réforme, tu m'étonnes, comment pourrait-il le dire, puisqu'il la souhaitait. Pas une mauvaise réforme, mais une réforme qui a été mal expliquée. Voilà. Donc il dit peut-être que j'aurais dû être plus présent, ce qui est une critique d'ailleurs au passage de son gouvernement et de sa première ministre, puisqu'il estime que le gouvernement n'a pas fait le job et que, en creux, il aurait fait mieux. Ça, c'est son analyse. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, il se montre beaucoup. Et Le Figaro n'est pas loin de dire bah, il aurait fallu le faire un peu plus tôt, pendant le débat pour la réforme des retraites, qu'il mouille un petit peu la chemise, le maillot, pour expliquer, puisqu'il estime que ça a été mal expliqué, la réforme des retraites aux Français. Ça, Le Figaro le regrette. D'ailleurs, je crois que Le Parisien en parle aussi ce matin. Allons voir l'analyse du Parisien sur ce sujet. Oui, voilà. Allons plus loin là-dessus. Voilà, c'est... voilà. Bob, comme dit Bob Zor 23, ah oui, on n'a rien compris. Bah, c'est un peu, oui, c'est un peu l'analyse du président. Les Français sont trop bêtes, n'ont pas compris. Ça fait des mois qu'il nous dit qu'on a mal compris. Ah, c'est ce que vous dites dans le chat. Sleep Bull, magnifique pseudo, écrit, je trouve qu'on a très bien compris, justement. Voilà. Il y a Jack Dalton qui dit, bah oui, c'est un peu trop tard maintenant. C'est vrai que vendre cette réforme des retraites après, c'est vrai que c'est un peu moins de sens, quoi. C'est vrai que c'est un peu moins de sens. Voilà, qu'est-ce qu'on pense Le Parisien? Bon, d'abord, effectivement, Le Parisien note, comme Le Figaro, qu'il y a... Je viens de changer mon bureau, je n'ai déjà pas assez de place. Je ne sais jamais où je dois mettre ma souris. Ma souris, League of Legends. Le Parisien constate aussi, effectivement, qu'il y a un changement de stratégie. Steph Mascara, merci pour le gentil message, c'est adorable. Macron sur tous les fronts, politique, économie, international. Le président multiplie déplacements et interventions tous azimuts, comme hier soir sur TF1. Où il annonçait notamment des baisses d'impôts. MMGCTF, qui est un viewer et qui est un modo aussi de cette chaîne, écrit « On ne demande pas à un président de se surexposer et d'avoir le gros melon, on demande juste à ce qu'il fasse bien son travail et qu'il s'occupe des vrais problèmes des Français plutôt qu'à aller chercher des accords avec des gens qui ne souhaitent qu'avoir le fauteuil et dormir dessus. On dit les termes ici. » Ouais. Alors, vous êtes quelques-uns, notamment Tego Lake, qui me pose la question depuis tout à l'heure, et comme Tégolec, je pense que ça fait à peu près 3 ou 4 fois minimum que tu poses la même question avant de te faire bannir par les modos. Je te sauve, je t'attrape par le col pour te sauver. Et tu m'interroges à propos de l'éviction de la quotidienne sur France Inter. Bon, alors c'est pas une question d'actu, parce que ça a été annoncé déjà il y a un petit moment, la semaine dernière, je crois. Je ne peux pas répondre à ta question, je vais te dire pourquoi. Je n'écoute pas la radio. J'ai une vie qui est un chouïa trop chargée, entre France Info, Question pour un champion, Twitch, les enfants et mon amoureuse. Et donc, je lis tous les journaux tous les jours, c'est mon kiff. Je passe un peu de temps à France Info, un peu de temps à Question, puis beaucoup de temps ici. Du coup, même si j'adore le média radio, où j'ai longtemps travaillé, je n'écoute plus la radio aujourd'hui, par manque de temps. Je n'écoute pas France Inter. Je n'écoute pas cette émission, je ne sais pas ce que c'est. Donc en fait, pour le coup, sur un sujet comme ça, notamment d'actualité média, en n'étant pas concerné, en n'étant pas connaisseur, en ne connaissant absolument pas la proposition éditoriale de cette émission, qui était peut-être, ce qui est peut-être sympa, hein, je sais pas, du coup, qu'est-ce que je vais te lire ? J'ai vu des papiers là-dessus. Bon, écoute, si j'en trouve un intéressant, je vous le lirai. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé des papiers passionnants. J'ai trouvé des papiers là-dessus. Voilà, on se pose, puisque c'est, je sais pourquoi certains veulent me poser la question. Parce qu'il y a des soupçons de, comment dire, de, sinon d'interventionnisme politique pour, comment dire, faire dégager un petit peu des poils à gratter, hein, ou interventionnisme politique, ou soupçons d'auto-censure d'une direction de Radio France, de France Inter, pour faire taire des voix un peu poil à gratter et dissonantes. Je sais, c'est pour ça qu'on me pose la question. Je t'avoue que je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que je ne connais pas le sujet. Donc là encore, je préfère ne pas dire, plutôt que de dire des bêtises. Alors vous allez me dire, bah, tu ne maîtrises pas tous les sujets que tu évoques ici. Oui, mais parfois je tombe sur un papier qui pense à ma place et qui pense bien, dont j'estime l'analyse intéressante et je vous la soumets. J'ai pas trouvé ce papier dans la presse ces derniers jours. Bon, si j'en vois un, je vous le lirai. Voilà. Merci, ça me fait plaisir. Il y a Tégolec qui nous répond. Merci d'avoir répondu sincèrement ça. Mais on, voilà. C'est pas parce que, tu vois, c'est pas parce que je veux pas évoquer le sujet, c'est parce qu'en fait, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Je manque un peu de matière et notamment, je manque de bons papiers sur le sujet. Voilà. Kinema Live écrit, le truc c'est que l'émission la plus populaire de France Inter et qui gagne de plus en plus d'audience, et d'un coup ils veulent l'arrêter. Oui, c'est vrai, c'est ça l'histoire. Donc d'ailleurs Charline Van Honecker, comment on prononce son nom de famille, c'est Charline Van Honecker, je prononce bien Van Honecker, comme j'écoute jamais, il aurait suffi que j'écoute une seule fois. On a parlé chez nos confrères de France 5, d'ailleurs dans le service public. Eh bien, c'est dite surprise que son émission, qui est extrêmement écoutée, donc c'est une émission d'humour sur l'actualité, si je dis pas de bêtises, là, j'espère que je dis pas trop de conneries parce que je l'ai jamais écoutée, Van Honecker, soyez d'accord. Bon, certains me disent Van Honecker, d'autres Van Honecker. Bon, peu importe. Donc cette humoriste, elle s'est étonnée elle-même à voix haute, mais sur une antenne du service public, c'est intéressant, que chez ma copine Babette, dans C'est à vous sur France 5, que cette émission s'arrête et passe en hebdo. Je crois que ça arrive le week-end. Voilà. Donc, elle se pose la question. De là naît une interrogation, pourquoi on arrête une émission qui marche ? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse, je cherche le bon article là-dessus. On va le trouver. Ça va être transformé en hebdo. Mais c'est un sujet intéressant, hein ? Pas parce que je ne l'ai pas abordé encore, qu'il n'est pas important. Allez, on lit l'édito du Parisien sur la prestation de Macron hier soir. Il est intéressant l'édito d'Olivier Auguste. Plus question de rester une cible immobile. Après des semaines à subir les assauts des oppositions, des syndicats, de la rue, Emmanuel Macron a donc enclenché la riposte. Donc c'était hier soir sur TF1. D'abord en rendant les coups, les organisations syndicales réclament toujours l'effacement de l'âge légal de départ à 64 ans. Elles n'empêchent pas le pays de tourner. Il n'y a quasiment pas eu de grève dans le privé, a déclaré le président Macron hier. Le mode d'adoption de la réforme des retraites est contesté. Eh bien c'est la faute, dit-il, aux Républicains. Qui, bravache pendant la présidentielle, hein, derrière Valérie Pécresse, ont promis le report à 65 ans et puis se sont ensuite débinés. Le président est taxé de mépris, il répond, le vrai mépris c'est de mentir aux gens, or sur le mensonge les extrêmes sont bien meilleurs que les partis de gouvernement, voici pour les réponses du président aux accusations. Ensuite, donc en répondant, en bougeant et faisant diversion, écrit le Parisien, Ukraine, attractivité, industrialisation, lutte contre l'inflation alimentaire, hausse des salaires, baisse des impôts pour les classes moyennes, de quoi terminer l'interview hier soir par ce qui en aurait constitué le début il y a encore une semaine ou deux, les retraites. Et déjà, que le thème des retraites soit hier soir à la fin de l'interview sur TF1, eh bien, c'est déjà une première petite victoire pour le président Macron, estime Le Parisien. Pas encore suffisant. Néanmoins, pour passer à une autre séquence, comme le chef de l'État en rêve, alors le voici qui réexplique le pourquoi du comment de la réforme. Je fais ce que j'ai dit pendant la campagne 2022, plaide le président qui poursuit, la réforme est nécessaire au vu des comptes, les alternatives, baisse des pensions, hausse des prélèvements, inenvisageable, et travailler plus longtemps permet de créer un peu plus de richesses à redistribuer ou à consacrer à l'école et à la transition écologique. Les arguments ne convaincront pas tout le monde, mais ils ont le mérite d'être, écrit le Parisien, moins tortueux que le triptyque justice, équité, progrès, que le gouvernement avait d'abord tenté de vendre aux Français. De ce point de vue aussi, Emmanuel Macron semble terminer par ce qui aurait dû être le début. Il y a une petite critique en fond, là, dans cet édito, donc qui montre que effectivement le président Macron est un peu passé à l'offensive, et qui dit, qu'on soit d'accord avec ses arguments ou pas, au moins le président Macron, hier soir, a donné des arguments assez simples. Faire les économies en gros et redistribuer ces économies notamment sur d'autres sujets comme l'école et la santé, à défaut d'être d'accord, au moins c'est simple et c'est compréhensible, contrairement aux arguments qui ont été mis en avant notamment par une partie du gouvernement pendant le débat sur la réforme des retraites. Voilà. Donc le Parisien qui, après d'autres d'ailleurs, disent quand même que cette histoire a été très mal ficelée. Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne. Je vous lis. Ouais. Ça change tout le temps. Avant, c'était pour sauver le système de retraite par répartition, dit Bobzor 23. C'est vrai que un des problèmes de l'exécutif, c'est qu'ils ont donné le sentiment, le changer sans arrêt d'explication pour nous vendre cette réforme des retraites. Ça n'est pas faux. Rature de rien, mais en tout cas, raid hyper bien accueilli par l'ami qu'on a. Vers qui on a lancé un raid hier. Et on ne parle pas des 1200 euros minimum, bien sûr, ouais. qui n'était pas du tout pour tout le monde, comme le gouvernement essaie de nous l'expliquer. Bon, on reviendra tout à l'heure avec l'analyse des échos sur le sujet. On passe à ce qui, pour moi, est le sujet le plus important dans la presse de ce matin. C'est peut-être pour ça que vous ne me posez pas trop de questions sur Macron, peut-être parce que vous avez envie qu'on passe à ça. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et moi j'ajoute contre toutes les LGBTI phobies. Et le Parisien a pris un petit peu d'avance, et nous aussi ce matin on a pris un petit peu d'avance sur France Info, puisqu'on a évoqué ce sujet, notamment en recevant la numéro 2 de l'association SOS Homophobie. On ira voir un extrait dans un instant, parce que je trouvais que cette dame était assez passionnante. Mais le Parisien fait un dossier sur deux pages que je trouve extrêmement intéressant, sur tous ces sujets, avec des témoignages notamment de gens concernés, et c'est assez fort. Je voulais le partager avec vous ce matin. Je remercie Bien-être pour le 21e mois d'abonnement. On ne peut pas faire plus, on est au maximum. Termite, merci pour le 3e mois d'abonnement à nouveau. Comme Diana, de nombreux jeunes LGBT+, sont rejetés par leur famille, rappellent des associations et une étude que nous dévoilons avant la journée mondiale contre l'homophobie, une autre étude que celle des SOS Homophobie, qui je crois est publié par l'association Le Refuge et qui est mise en avant par Le Parisien ce matin. 66 Abigail évoque un super documentaire ce soir sur France 2. Je crois qu'il y a un très beau doc, on va en parler aussi. La première fois, raconte Julien, c'était un mois avant le bac. Son beau-père a failli l'étrangler. La deuxième fois, Julien a essuyé tellement de coups qu'il a subi un traumatisme crânien. Il a passé une nuit à l'hôpital. En sortant, le jeune bachelier a alors décidé de quitter le foyer familial. J'étais triste, dit Julien, mais je n'avais pas le choix. Mon beau-père est très macho. Pour lui, il n'est pas envisageable que je sois homosexuel. Raconte le jeune homme qui aujourd'hui a 23 ans, a enfin réussi à décrocher un travail accompagné à Strasbourg par la fondation Le Refuge dont je vous parlais à l'instant. À l'occasion de ses 20 ans et de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie de demain, l'association, donc Le Refuge, qui lutte contre l'isolement et le suicide des jeunes LGBT en situation de rupture familiale, rappelle dans une étude en lien avec l'Institut BVA, dont Le Parisien dévoile en exclusivité les chiffres ce matin, que si près d'un Français sur deux, 46%, estime que la situation des personnes LGBT+ s'améliore dans notre pays, les manifestations directes d'homophobie et de transphobie restent extrêmement fréquentes. Le terme PD est toujours aussi souvent utilisé. 70% des personnes LGBT+ estiment qu'il est compliqué de nourrir de bonnes relations avec sa propre famille. Dans une autre étude que nous vous révélons, que France Info vous a révélée ce matin en exclusivité, l'association SOS Homophobie souligne que les victimes d'actes homophobes et transphobes les plus jeunes, de moins de 18 ans et jusqu'à 24 ans, représentent, écoutez bien, 30% des cas pour lesquels l'âge de la victime est connu. Pour elle, le tiers des agressions se produit dans un contexte familial ou dans l'entourage proche. Pour les plus jeunes, on va dire les moins de 18 ans ou les 18-24 ans, le tiers des agressions se produit dans un contexte familial ou dans l'entourage proche, ce que je trouve juste hallucinant. Je vous lis un petit peu, j'ai l'impression que le chat est un petit peu énervé. Je vous rappelle qu'ici on est sur un chat apaisé, qu'on n'est pas obligé d'être d'accord tous ensemble. Au contraire, c'est hyper intéressant de poser nos arguments, mais avec correction, respect les uns et les autres, c'est un peu l'idée. Ça va ou pas? Je remonte un petit peu dans le chat pour voir si tout va bien. What? Non, 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 non. Je comprends que certains puissent être choqués par certains propos, je le suis aussi un petit peu. Il y a Anna Xenemoun qui écrit dans le chat « Je suis contre la discrimination sans distinction. » Yes. Mais on ne fera pas changer le fait que j'estime que c'est contre nature. On ne choisit pas son orientation sexuelle. On ne la choisit pas. Hein. Ça n'est pas, ça n'a, évidemment que ça n'a rien contre nature. Et si on cherche à laver le cerveau de mes enfants, mais personne ne veut laver le cerveau de tes enfants, ça ne me plaira pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on parle. Hein. Il faut que je te lise encore quelques articles sur le sujet. Voilà. Bon, en fait, le chat est plus apaisé que je pensais qu'il n'était. Ah, vous êtes plusieurs là, sur cette idée-là. Hugo Cunha, je suis d'accord pour que chacun ait sa liberté de penser et choisir son orientation. On ne choisit pas son orientation. C'est fou, ça, cette idée de choix. Mais inculquer une valeur LGBT et autre à des enfants, c'est non. Ok, bon, il va falloir qu'on lise des choses alors. Qu'on lise des choses. Allez, on continue, puisque manifestement, on a besoin de lire un petit peu. Hein. Le coming out, qui vient du verbe anglais signifiant « sortir de », désigne ce moment où la personne LGBT+ annonce à son entourage donc son orientation sexuelle ou son identité de genre, hein, c'est les deux. Pour Diana, par exemple, femme trans de 22 ans, qui a grandi seule avec sa mère à la campagne en Meurthe-et-Moselle, eh bien, ce coming out... c'est très mal passé. Ma mère a poussé des hurlements. La jeune femme n'avait jamais connu son père. Avant son coming out, elle avait été victime de phobie scolaire et elle avait arrêté l'école en troisième. Elle ne communiquait déjà pas beaucoup avec sa génitrice, dit-elle, mais après la situation s'est vite détériorée, on s'est même tapé dessus. Un jour, alors que Diana a 17 ans, sa mère a pris ses affaires et quitté le domicile sans un mot. La mère de cette jeune femme a quitté la maison sans un mot. Depuis, je n'ai plus aucun contact avec elle. J'ai juste parfois quelques nouvelles par mes grands-parents qui sont plus ouverts d'esprit et m'acceptent tel que je suis, raconte Diana en tirant sur ses boucles brunes. Il y a deux autres petits papiers dans ce dossier du Parisien. Un sur l'homophobie dans le football, parce qu'il y a des, ces derniers jours, il y a des choses qui ont été hallucinantes. Et puis, un témoignage de Vincent Dedienne, le comédien et narrateur de ce documentaire qui est proposé ce soir par France 2, qui s'appelle « Homo en France ». Et qui est salué par tous ceux qui l'ont regardé. On va lire ça, mais d'abord je vous lis un petit peu dans le chat. Rainbow86, merci pour le 12e mois d'abonnement. El Souyel, merci pour le Prime. Bien sûr. Shalom, est-ce qu'on peut rappeler que l'homophobie n'est pas une opinion mais un délit ?
Oui.
Je le rappelle avec toi. Almirac rappelle ce qui est évident, mais manifestement l'évidence a besoin d'être rappelé. Je suis hétéro, je ne l'ai pas choisi, c'est pareil pour les homosexuels, pareil pour les trans. Oui, c'est tellement évident, mais tu le rappelles, c'est bien. Je suis très surpris par une partie des commentaires du chat. Encore une fois, si on faisait un sondage sur l'intégrité des gens qui nous regardent, on n'aurait pas forcément cette musique-là, mais parfois les gens les plus, comment dire, les plus persuadés, notamment d'avoir raison, sont les plus actifs dans le chat, ce qui donne une couleur au chat qui n'est pas forcément celle de l'ensemble des viewers. C'est un grand classique. C'est fou qu'en 2023, on soit encore sur ce débat, en fait. Noctua, écrit dans le chat. Bravo de rappeler ce genre de choses. Il n'y a pas à dire bravo, en tout cas sûrement pas à moi, parce que c'est tellement évident. Mon demi-frère a fait son coming out à sa mère catholique, pratiquante, donc très croyante. Ça a été très compliqué, des semaines de pleurs pour lui aussi, sa propre réalisation était très compliquée. Ce n'était pas un choix. Vous savez quoi ce qu'on va faire ? On va aller écouter cette dame que j'ai reçue ce matin sur France Info, qui est la coprésidente d'SOS Homophobie, voilà, et qui est venue témoigner du rapport, du dernier rapport de l'association sur l'homophobie en France en 2022. Voilà. On va l'écouter parce que je l'ai trouvé assez formidable, et puis après on en discute tous ensemble. Ça, c'est un extrait du journal de 7h de ce matin. Je vous passe quasiment jamais, pour pas dire jamais, d'extrait de la matinale pour pas faire genre la pub de mon travail. Ceux qui sont ici tous les jours en sont le témoin, mais cette dame m'a pas mal touché, quoi.
Bonjour à tous, bon réveil et un grand merci d'être avec nous dans la matinale de France Info. On va en parler dans un instant dans les titres avec Zora, mais je voulais saluer notre invitée qui vient de nous rejoindre, Véronique Godet, coprésidente de SOS Homophobie. Un grand merci, puisque vous dévoilez ce matin, vous l'avez avec nous, le rapport annuel de votre association, oui, SOS Homophobie, sur les LGBTI-phobies. Merci beaucoup d'être avec nous. Les titres que j'évoquais à l'instant de l'actualité de ce jour, les voici avec Zora Benmiloud.
Véronique Godet, l'occasion de vous montrer Zora Benmiloud, qui est la présentatrice des JT dans la matinale de France Info que j'adore et qui sera avec nous vendredi dans l'Hebdo Étienne. Je vous montre juste ces titres et après on ira chercher l'interview de Madame Godet.
Et à la une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. Annonce d'Emmanuel Macron.
Voilà, ça c'est Zora. C'est drôle parce qu'on m'entend chuchoter, je ne sais pas si vous avez fait attention. Je profite des titres pour échanger avec mon invité sur les choses qu'elle veut mettre en avant. Voilà, puisque moi j'ai préparé l'interview, mais peut-être qu'elle a des messages à faire passer. Et donc je lui demande un petit peu ce qu'elle voudrait qu'on évoque ensemble. Quoi. Alors nous on va passer à un sujet sur la question. Là j'avance un petit peu dans le journal qui doit arriver là. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. On passe un petit sujet très court dans le journal et après on échange avec elle. Avec notre invité, avec Madame Godet. Hop, voici sans doute, enfin, après le sujet sur le risque d'incendie dans les Pyrénées-Orientales, c'est ce que vous voyez ici, eh bien, hop, le sujet et l'interview, C'est parti.
Cellule spécifique avec la gendarmerie pour traquer les éventuels incendiaires.
On va se pencher maintenant, comme promis, sur ce rapport très attendu. C'est une exclusivité ce matin pour France Info. On vous dévoile le rapport annuel de l'association SOS Homophobie sur les LGBTI-phobies.
Et les chiffres montrent une augmentation des actes homophobes et transphobes en France, des agressions de plus en plus nombreuses, parfois notamment dans les rues. Guillemets à l'art.
Les chiffres qui font froid dans le dos. En un an, selon le rapport de SOS Homophobie, les actes LGBTI-phobes ont augmenté de 5%. Il s'agit avant tout de rejets qui concernent plus de 6 cas recensés sur 10. Un rejet qui s'accompagne d'insultes, dans 40% des cas, ou de menaces. Des agressions verbales et psychologiques auxquelles peuvent s'ajouter des violences physiques. Coups, blessures, agressions sexuelles, meurtres, ces violences sont présentes dans 15% des cas. Les personnes agressées sont en général des hommes cisgenres, qui représentent plus de 6 victimes sur 10. Mais les couples de femmes sont aussi très visés par ces violences. En ce qui concerne les jeunes de moins de 24 ans, un cas sur trois a lieu au sein de l'entourage ou de la famille et un cas sur cinq dans le cadre scolaire. Enfin, les agresseurs sont majoritairement des hommes, seuls ou en groupe.
Voilà pour le petit sujet sur, on va dire, les principaux chiffres de cette étude, de ce rapport de SOS Homophobie. Et puis après, donc, j'échange avec notre invité pendant 5 minutes, je crois, avec la coprésidente de SOS Homophobie. C'est parti.
Je remercie à nouveau Véronique Godet, coprésidente de SOS Homophobie, d'être avec nous ce matin. Vous vouliez d'abord parler, le sujet de Guillemette, nous en parlait à l'instant, Guillemette Allard, des agressions.
Tout à fait. Nous sommes face à un constat totalement alarmant, puisque un jour sur deux, un gay, une lesbienne, un ou une bi, une personne trans, une personne intersexe se fait agresser aujourd'hui en France.
Un jour sur deux.
Un jour sur deux. Et ce sont des agressions qui sont violentes. Nous avons 10% de témoignages qui évoquent même des tentatives de viol ou des viols. Donc, ce qui nous inquiète, c'est que notre rapport est basé uniquement sur des témoignages que nous recevons, c'est-à-dire que la réalité va au-delà de ce que nous pouvons aujourd'hui évoquer. Donc, nous sommes très inquiets parce qu'il y a un ancrage des LGBTI-phobies dans la société, même si la société évolue, même si les mentalités évoluent, on reste quand même face à des poches de résistance qui sont très inquiétantes.
Le nombre de cas de transphobie, une nouvelle fois en forte hausse dans ce rapport que vous avez ici, 26% de plus en 2022 par rapport à 2021. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays par rapport à cette question ?
Il se passe qu'aujourd'hui, la société a du mal à accueillir les personnes trans. Et ce sont avant tout les femmes trans qui sont agressées. Nous avons relevé aussi que 11% des témoins n'agissaient pas lorsqu'une personne trans se faisait agresser. C'est-à-dire que c'est très inquiétant. Et aujourd'hui, le parcours des personnes trans est encore soumis à une judiciarisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ce que l'on veut, on ne peut pas être ce que l'on est, si on n'a pas un avis d'un juge. Donc c'est absolument, j'allais dire, indigne d'une société démocratique. Et nous, aujourd'hui, par exemple, Sacha, qui est un jeune trans, qui est rejeté par sa famille. Sa famille l'accompagne chez un psychanalyste qui le mégenre, qui lui dit que sa transidentité est contre nature et qui lui conseille un pseudo-stage de thérapie de conversion, qui par ailleurs sont interdites.
Ouais, c'est illégal. Ouais.
Donc, vous voyez, au quotidien, les personnes trans subissent le regard à la fois inquisiteur et transphobe de ceux et de celles qui les entourent. Vous... Je peux prendre aussi l'exemple, si vous voulez, d'Héloïse, qui est une demandeuse d'emploi, qui doit déjà faire... qui doit affronter le regard hostile des chargés de recrutement, qui lui déconseille fortement l'emploi auquel elle postule, parce qu'elle serait en présence de personnes âgées qui pourraient porter plainte contre elle. Donc vous voyez, au quotidien, c'est un monde absolument transphobe qui empêche vraiment les personnes de s'épanouir.
Vous parliez à l'instant du jeune Sacha. Ce rapport se penche aussi sur la situation des mineurs et de ce qui se passe dans le milieu scolaire.
Tout à fait. Le milieu scolaire n'est pas un milieu safe pour les enfants. C'est-à-dire que nous avons des adolescents qui sont rejetés par leur famille, qui ne sont pas bien accueillis à l'école, qui subissent des LGBTI-phobies dans la cour, et cette haine se poursuit sur les réseaux sociaux. Donc il y a une espèce d'ancrage, là encore, de la violence au quotidien, qui fait qu'un quart de nos adolescents qui prennent contact avec nous évoquent un mal de vivre qui les empêche, évidemment, de s'épanouir à l'école. Et par exemple, on a le cas de Arthur qui est harcelé au quotidien dans la cour. On l'interroge sur ses organes génitaux. On le poursuit sur les réseaux sociaux. Et Arthur, qui était un jeune garçon, un bon élève, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, il préfère rester chez lui. Donc, nous, on demande vraiment que l'école devienne un lieu où les jeunes adolescents puissent s'épanouir indépendamment de leur orientation amoureuse et sexuelle et indépendamment de leur identité de genre.
Véronique Godet, je voudrais vous remercier puis m'excuser aussi parce que c'est frustrant d'avoir aussi peu de temps pour échanger. Ce thème mériterait bien sûr des heures d'échange, mais vous pouvez retrouver sur franceinfo.fr bien sûr des explications beaucoup plus concrètes sur ce rapport qui vient d'être qui est publié aujourd'hui en fait.
Je vous remercie.
Merci Véronique Godet, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt. L'actualité internationale.
Voilà pour ce témoignage. Alors que ce n'est pas comment dire quelque chose de classique, que je m'excuse auprès d'un invité de ne pas avoir assez de temps, mais d'avoir ici 4-5 minutes peut-être. 5 minutes. Alors dans un journal qui en fait 12, donc c'est toute la difficulté. Il y a M. Lapé qui a écrit, ah oui c'est court, mais le journal il fait 12 minutes, on est sur une chaîne info, hein. Donc déjà un journal de 12 minutes sur une chaîne info c'est un temps long, mais c'est 12 minutes pour évoquer toute l'actualité, donc consacrer ici 5 minutes plus 1 minute de sujet, donc 6 minutes, c'est-à-dire que la moitié du journal a cette question, c'est un choix éditorial déjà. Mais c'est très frustrant parce qu'évidemment ce sujet mérite beaucoup plus de temps, mais on est sur un format tout info, donc on fait le mieux que l'on peut dans le temps qui nous est imparti, d'où l'intérêt de Twitch qui est un média du temps long justement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Mais cette femme m'a touché par la force de ses convictions, par l'humanité qui se dégageait d'elle, par le fait que alors qu'elle est venue me parler d'un rapport avec beaucoup de chiffres, elle est préférée, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, aller au-delà des chiffres et nous parler de Sacha, nous parler de telle ou telle personne en situation de discrimination en raison de son homophobie ou de son homosexualité ou de sa transidentité. Voilà. C'est très curieux parce que ce week-end, moi, je suis allé voir des amis, par exemple, puis en quittant une famille que j'aime beaucoup, un couple et puis leurs deux enfants, et en allant se promener... pour une promenade en forêt, c'était assez loin de Paris, on a croisé une femme dans l'escalier, sur le palier, et puis dans l'ascenseur, très sympathique, et voisine donc de mes amis, et qui semblait comme un peu gênée, comme un peu furtive en quelque sorte, quoi. Et donc j'étais un peu étonné, et mon voisin m'expliquait que cette femme trans, donc en transition en fait, longtemps était en quelque sorte comme ça gênée dans l'espace public, en quelque sorte empêchée de vivre voilà, ça, qui elle est vraiment, en raison sans doute du regard qu'elle sent sur elle, voilà, et que même là dans son immeuble, eh bien, j'ai senti cette gêne exprimé et qui est sans doute le reflet du poids du regard de la société, quoi. Donc voilà, donc là je trouve que cette dame nous en a parlé merveilleusement bien. Je vous lis un petit peu maintenant et puis on finit le dossier du Parisien. On va parler de l'homophobie dans le football aussi et puis du documentaire qui est diffusé ce soir sur France 2. Très touchante cette dame, en effet, Néphilim, je suis d'accord avec toi. Il faut proposer une rencontre, Étienne, avec cette dame, MP12, je crois que c'est une très bonne idée. Pardon, j'arrive après la guerre, mais est-ce qu'on a parlé des footballeurs qui refusent de jouer avec un maillot aux couleurs arc-en-ciel? Marshallo, on en parle dans une seconde, tu n'as rien raté. Elle a humanisé les chiffres, exactement, Pupulin, c'est ce que j'ai aimé chez cette dame, chez Madame Godet, ouais, carrément. Alexandra qui nous regarde a été touchée aussi par cette intervention ce matin sur France Info. Merci à toi. Je vous avoue que je suis assez surpris par la tonalité d'une partie des commentaires sur ces sujets. Voilà. que je ne vais pas qualifier parce que je ne suis pas là pour me mettre en colère, mais je suis surpris. Je me dis que ces avis sont minoritaires et peut-être très présents dans le chat, mais je suis surpris de les lire ici. Kinema Live écrit « Force à tous ceux qui ne se sentent pas acceptés dans notre société, je m'associe à ton message. » Ravensburger, je t'adore, mais on n'est pas sur Twitter ici, donc on n'est pas là pour raconter juste n'importe quoi. Ravensburger qui écrit « Tu ne dois pas venir souvent ici. » 12 minutes d'info, donc tu parles du format du JT de France Info, entouré par 12 minutes de pub sur France Info. Il n'y a pas une seule seconde de pub. On est sur la chaîne info du service public. Et il n'y a pas une seule seconde, pas une seule seconde sur 24 heures d'actualité. Donc je vois que tu es un fidèle téléspectateur de France Info puisque tu me parles de 12 minutes de pub sur 12 minutes de JT. Merci pour la pertinence de cette intervention. Mais encore une fois, on n'est pas sur Twitter, on est sur Twitch. Donc on essaie de savoir de quoi on parle avant de participer à un débat. Je suis désolé. Pourquoi je suis pas d'accord avec le message qui a été supprimé. Je pense que Broubrou06, tu as fait un misclick parce que je ne vois pas en quoi le message de Sacha From Paris c'était gênant. En fait, c'était, il y a de la tristesse et il y a de la colère, mais je pense qu'il faut pas supprimer ce message en fait. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est un misclick. Je vais tenter un sondage sur ce sujet. La question, je vais un peu la personnaliser, elle est très simple. Elle est toute simple. Êtes-vous d'accord qu'il faut dans un pays comme la France se battre contre toutes les LGBTI phobie, voilà, comme le dit SOS Homophobie, comme cet article du Parisien le dit, comme je le dis aussi pour que qu'on arrête toutes les formes de violence verbale, psychologique, physique contre les personnes concernées. Voilà, c'est une question toute simple. Je pense que c'est la bonne question. T'en pensez quoi? C'est comme ça qu'il faut la formuler? Est-ce que vous êtes d'accord? Pas sûr qu'elle soit bien tournée en fait, je vous lis. Mais pour certaines personnes dans le chat, je suis pas sûr que la réponse soit évidente. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme question? Je suis aussi là pour échanger avec vous sur l'intitulé des sondages. On va essayer de la tourner autrement. Mais proposez-moi d'autres formes de questions. Le I correspond à quoi? À intersexe. Allez voir sur Internet, une définition extrêmement claire. Si on n'est pas d'accord sur la forme du sondage, on ne lance pas le sondage. Hein, parce que je ne veux pas que le sondage provoque également de la colère. On n'est pas là pour ça. C'est juste, je pense que le sondage peut montrer que une partie des commentaires du chat en fait sont pas forcément aussi nombreux qu'on pourrait le penser. Alors, vous êtes très nombreux à dire que c'est pas la bonne formulation, mais vous êtes beaucoup moins nombreux à proposer une autre formulation. N'hésitez pas à travailler un petit peu aussi, ça m'intéresse. Donc je continue à lire les commentaires et je redis la même chose. Encore une fois, nous faisons le constat que la formulation de ce sondage n'est pas le bon. N'hésitez pas à en proposer un autre, s'il vous plaît. Pouvons-nous être libres de vivre notre différence de genre ou sexualité, dit Beginner par exemple, ok? Je ne vois pas beaucoup de propositions plus pertinentes, en fait. Faut-il renforcer la lutte contre la LGBTI-phobie? La question serait moins manichéenne. Ouais, pourquoi pas? Moi, j'aime bien l'histoire de la liberté de tout à l'heure, qui était évoquée par quelqu'un là. Je vous lis, hein, je ne suis pas en train de faire une petite sieste, je suis en train de vous lire. Je ne suis pas convaincu par les formulations. Si on ne trouve pas une formulation de sondage pertinente, on ne va tout simplement pas le faire, en fait. C'est vrai que peut-être que, tout simplement, peut-être que sur ce thème, un intitulé de sondage un peu basique, oui, non, n'est pas forcément une bonne idée. Est-ce notre devoir de lutter contre les violences homophobe, je pense que tout le monde va être d'accord, j'espère. Ouais, je suis pas. En fait, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas d'idée de sondage pertinente sur le sujet, en fait. Comme le dit Eva Subrissis, il n'y a pas à être d'accord ou pas, être homophobe ou transphobe d'ailleurs, si je peux ajouter, et biphobe également, être illégal. Siegfried Live résume peut-être le sentiment général. Le sujet est trop vaste pour un sondage. L'idéologie, les méthodes, les formes, les cibles, etc. C'est vrai, peut-être. Il y a quelqu'un qui propose, c'est Mon Jardin Fleuri. Soutenez-vous la cause LGBTI. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formulation? Est-ce que vous soutenez la cause LGBTI? Ou LGBTQI, pour être encore un peu plus complet. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Ou alors, Sun Ao, doit-on défendre les droits LGBTI+? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous validez cette proposition? Non, vous n'êtes pas convaincu. Ok. Vous êtes assez nombreux à estimer aussi qu'il n'y a pas de sondage pertinent à faire sur cette question. J'entends cette remarque et je la retiens. En revanche, je n'en ai pas fini avec ce sujet, parce que je vais vous parler de l'homophobie dans le football en France, toujours dans l'excellent Parisien ce matin. Je remercie Bobby Lazor pour le 13e mois d'abonnement. Et on y va. Dans les stades, se demande le Parisien, est-ce que le football le Parisien s'était emmêlé avec les échos. Est-ce que le football peut et veut agir? Voici l'article. La question revient à chaque occasion. Pourquoi le monde du football se renferme-t-il à l'heure d'évoquer l'homosexualité ou simplement de participer à la lutte contre l'homophobie. C'était le cas avant et pendant la Coupe du Monde au Qatar, je ne sais pas si vous vous souvenez. autour du port d'un brassard arc-en-ciel. Et tout au long de ce week-end, au sujet de l'opération Homo ou Hétéro, on porte tous le même maillot qui a été mis en place par la LFP, la Ligue de football professionnel, pour la 5e année dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie de demain. Le refus de quelques joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 d'arborer un maillot au flocage arc-en-ciel en raison de leurs croyances, c'est ce qui s'est passé ce week-end, il y a des joueurs qui ont refusé de porter ce maillot, en raison, ont-ils dit, de leurs croyances et convictions, je cite, a encore mis en lumière la difficulté pour le foot de rassembler la totalité de ses acteurs. Jusque dans les propos d'entraîneurs comme Éric Roy du Stade Brestois ou Bruno Genesio du Stade Rennais, je cite, « Il n'y a pas de place pour les discriminations ni dans le foot ni dans ma vie », clame ce dernier, mais, il y a un mais, nous sommes là pour jouer au foot, je ne suis pas certain, a-t-il dit, que ce soit nécessaire de faire une journée contre l'homophobie. Dimanche soir sur France 2, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a lancé, elle, un rappel à l'ordre. Il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, de prendre des sanctions. Ce qu'a annoncé le Toulouse FC avant même cette déclaration, quelqu'un me parlait justement des initiatives qui étaient prises à Toulouse dans le chat tout à l'heure, c'est ce qu'a annoncé le TFC avant même cette déclaration et le FC Nantes ce lundi, les 4 joueurs concernés ont été écartés et ou sanctionnés financièrement pour manquement aux obligations et devoirs du contrat de travail. La lutte contre l'homophobie, pardon, dans les stades français dépasse largement cette journée et le symbole de ce maillot au flocage arc-en-ciel. Présente de manière endémique dans les tribunes, la discrimination envers les LGBT s'observe tous les week-ends ou presque. Est-ce qu'elle est sanctionnée? Cette saison, Montpellier et le RC Lens ont écopé d'une banderole pour une amende pardon, pour des banderoles à caractère homophobe, mais rien à l'encontre de l'AS Saint-Etienne, de l'OM ou du PSG, malgré des chants comme, je ne vais même pas vous donner les paroles de ces chants, tant ils sont violents. Voici pour le foot. Petit commentaire sur le foot. Je vous lis. Y compris ceux... Désolé de vous imposer ça. Avec qui je ne suis pas d'accord, comme Destin qui écrit « Est-ce que vous vous rendez compte que vous voulez obliger des sportifs à soutenir des idéologies ? C'est le début des mauvaises dérives, ça. » Cette journée-là. Cette journée qui s'appelle « Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot ». C'est une journée pour dénoncer les discriminations et les violences homophobes. Ça n'est pas une journée pour soutenir une idéologie comme tu le dis, c'est pour dénoncer les violences et discriminations homophobes, notamment dans le sport. Donc ça n'est pas ça du tout. Je ne suis pas d'accord. Sandrine écrit, et je t'envoie tout mon soutien Sandrine, il y a des messages qui me font trop mal au ventre ici, mais c'est pas grave, je sais que l'amour est plus fort. À propos des chants et des mots que je ne veux pas vous lire ici, il y a Ishish qui écrit « Impossible d'interdire des chants dans des stades de plus de 40 000 voire 60 000 places ». C'est bien le problème, effectivement. Les clubs de foot n'ont pas trouvé encore la parade, c'est vrai. Boubou06 me pose la question, est-ce que Samuel Etienne, est-ce que tu considères le chambrage entre supporters, je pense que c'est ce que tu veux dire, est-ce que tu considères ça comme un comportement homophobe? Oui, en fait, à partir du moment où les mots que je ne veux pas dire ici sont utilisés par des supporters pour se chambrer, comme tu le dis, entre eux, sont des mots homophobes, eh bien, même si l'intention n'est pas celle-ci, eh bien, ça vise à populariser, vulgariser, banaliser l'emploi de ces mots qui doivent être supprimés de notre quotidien, en fait. Voilà. Donc, il ne faut pas que ces propos, qui sont des propos insultants, violents et discriminants, puissent être tenus dans l'espace public. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi, en fait. Et je suis d'accord avec cette loi. J'adore le. Je valide le commentaire de Paul Ostengen qui écrit alors le pourquoi les forcer qui a été écrit par quelqu'un dans le chat. Les gars sont déjà des panneaux publicitaires pour des marques et tout un tas de trucs, mais ajouter un pins arc-en-ciel, c'est pas possible. J'aime bien ce commentaire. Dromadaire, je vais me répéter puisque manifestement ça n'est pas clair, Dromadaire 96 qui nous dit « Doit-on obliger quelqu'un de militer pour une cause, qu'il soit d'accord ou non ?» Ça n'est pas du militantisme, ça n'est pas une cause, ça n'est pas une idéologie. Cette opération dans le foot français qui s'appelle, je le rappelle, l'opération homo ou hétéro, on porte tous le même maillot, est une initiative pour dénoncer l'homophobie, les agressions, les discriminations envers, notamment ici, les personnes homosexuelles. Et ça n'est pas pour soutenir ce qui n'est même pas une idéologie, et ça n'est pas du militantisme, en fait. Artus, reste avec nous, ça va bien se passer. Bon, le constat que nous faisons ici, c'est qu'il y a encore un petit peu de travail à faire sur le sujet. Eh bien, c'est pas grave, on va continuer. Je vais donner la parole dans cet article également à l'humoriste et comédien Vincent Dodienne, que je connais un petit peu parce qu'il est venu jouer à Question pour un champion il n'y a pas très très longtemps, voilà, à l'occasion de la 10 000e de Question pour un champion. C'était une émission spéciale, voilà, à laquelle j'ai joué exceptionnellement puisqu'on m'a fait la petite surprise de me laisser disputer la finale alors que je pensais que c'était Cyril Ferraud qui allait le faire, et donc j'ai changé, c'était trop mignon, de poste. Je suis passé d'animateur à présentateur et j'ai pu jouer la finale contre Vincent Dodienne qui avait fait un super parcours et qui est arrivé jusqu'à la finale. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Vincent Dodienne, il est comédien, il est humoriste et il est le narrateur d'un documentaire qui est diffusé ce soir sur France 2 qui s'appelle Homo en France. C'est ce soir à 21h10 sur France 2 et tous ceux qui ont vu ce documentaire l'ont trouvé formidable. C'est à 21h10 sur France 2. Si... Oh, c'est mon petit garçon, mon petit Solal qui passe. Hello, tu viens me voir? On va mettre une petite alerte enfant. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais d'abord un bisou. Le chocolat, c'est après. Viens me voir. Hello, Rodelia. How are you? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is it? Il y a because I closed the windows. Un pistolet et une moto Batman. Mais c'est quoi ce pistolet? Mais c'est pas très bien les pistolets, hein. C'est Berk les pistolets, hein.
Mais papa.
Quoi?
Regarde les pistolets.
Qu'est-ce que tu peux faire? Montre-moi. Oui, d'accord, mais c'est pas un vrai pistolet, hein.
Non.
C'est pas bien les pistolets, hein. C'est pas super. La moto de Batman, ça c'est super. Oh, mais où est-ce que tu as eu ce pistolet? Il n'y a pas de pistolet à la maison normalement. Oui. C'est un faux, hein, c'est en plastique rouge. Hein.
Oui.
Est-ce que je dois un bisou? Un bisou, un bisou.
Papa?
Oui.
Papa va au combat?
Bien. Oui. Alors.
Maman va au combat.
Un chocolat maintenant et un autre en dessert, ok?
Oui, un au combat au deveil.
Oui, ok.
Et
oh, t'es un coquin, hein.
Papa, on va déveiller.
Ok, the one now and un chocobon after the lunch.
Papa, regarde.
C'est très bien. Tu vois?
Tu papa, passes.
Tu veux que je te l'enlève? Tout c'est bien comme ça.
Regarde.
Tu passes une.
Ouais, papa,
est-ce que tu passes une bonne journée?
Oui.
Tu passes une bonne journée?
Oui.
Tu tousses, hein, comme papa, toi. Est-ce que tu veux faire un bisou? Tu veux faire un bisou à tout le monde? Oh,
oui.
Tu passes, tu tousses comme papa.
Oui.
On a le même truc. Est-ce que tu veux faire un bisou à tout le monde?
Oui.
Comment tu fais? Fais un bisou, vas-y.
Non.
Fais comme ça.
Non, comme.
Tu peux faire un petit bisou à tout
non.
le monde?
Non.
Est-ce que tu veux dire bonne journée?
Non.
Non? Tiens, tu fais ton timide?
Oui.
T'as bien raison. Fais-moi un bisou, je t'aime. Allez, va chercher ton chocolat.
Je t'aime. À tout à l'heure, on fera un dodo tous les deux. On fera une sieste. C'est pas grave, t'inquiète. Tiens, Batman. Soleil, on fait une sieste tous les deux. Ok. T'es ok? Bon, il s'en fout, il va acheter les chocolats. Petit chouchou. See you, Odélia. Merci pour la visite. Merci Solal, merci Rodélia. À tout à l'heure. Petit chou, je l'adore. Alors, on revient à notre documentaire sur France 2 ce soir. Avec Vincent Dodienne, qui a donc coécrit ce documentaire, nous explique-t-il. La question du Parisien, c'est celle-ci. 10 ans après la loi Taubira, donc le mariage pour tous en France, où en est-on? Est-ce que les choses ont un petit peu évolué en bien? Il répond, l'état des lieux est un peu contrasté. Le mariage pour tous a été quelque chose de positif, qui a apporté l'homosexualité dans tous les foyers français, dans toutes les familles, qui a fait sauter les verrous. Mais le débat a été d'une rare violence, il s'en souvient. Mais quand on voit que le nombre d'agressions homophobes a encore bondi cette année, on sait qu'on est encore très loin du moment où on pourra éteindre notre vigilance, dit Vincent Dodienne. Qu'en a-t-il été pour vous? Quelle a été votre histoire personnelle? Lui demande le Parisien. Il répond, j'avais 17 ans quand j'ai compris que j'aimais les garçons. J'ai eu la chance de faire du théâtre au lycée, puis une école pour être comédien. J'ai rencontré des gens attentifs, sensibles, ouverts, qui nous apprennent à nous connaître, à nous définir. Cela m'a forcément aidé. Je viens d'une famille un peu secrète. Mes parents ont appris mon homosexualité lors d'un de mes spectacles. J'expliquais que je venais de me faire larguer par un Florent. L'humour, la dérision sont des armes incroyables dans ces situations, raconte encore Vincent Dodienne. Et aujourd'hui, demande le Parisien au comédien, j'ai 36 ans, je suis comédien, je suis privilégié, j'évolue dans un milieu extrêmement favorable à l'homosexualité. Cependant, il m'arrive encore de réfléchir à deux fois avant de prendre la main de mon mec dans les rues de Paris. Et ça, c'est quand même le signe que ça ne va pas. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui découvre qu'il est gay? Question à Vincent Dodienne, réponse de l'humoriste. J'ai adoré avoir des modèles dans la littérature, à la télé, au cinéma. J'ai eu la chance de lire Hervé Guibert, de travailler avec Laurent Ruquier, de voir le film Le Secret de Brokeback Mountain. Il faut que dès l'enfance, on puisse avoir accès à ces représentations pour que les enfants sachent qu'il y a plusieurs façons d'aimer et qu'il n'y a pas que le modèle d'un homme et d'une femme. Ok, donc je viens de voir un message que je vais retrouver tout de suite là. Je pense que la personne a déjà été banne, je pense qu'en remontant dans le chat. Je ne vous lis même pas. Ah putain, t'as pas été banne? Ok. Anto, c'est quoi ce message là? Non, tu peux. Ah, la violence. C'est-à-dire que c'est homophobie et racisme dans le même commentaire, quoi. Possible, t'as pas pu écrire ça en fait. T'as pas pu écrire ça. C'est pas possible. C'est impossible. Non, c'est une erreur, c'est pas possible. Tu as été banni par. Tu as été banni par un modo. Je ne comprends pas que tu puisses écrire ça. Enfin, c'est pas possible. Bon. Évidemment, je ne peux pas lire ce message. C'est pas possible. Le pire, c'est que j'ai pris du temps parce que je suis remonté dans l'historique de la personne et je vois des propos cohérents, contenus. Sur bien des sujets depuis bien des jours, sinon des semaines. C'est pas quelqu'un qui a débarqué comme ça dans le chat, qui connaît cette chaîne. Tu connais le cadre, tu connais ce qu'on essaie de faire ici. Comment tu peux écrire ça? Je ne comprends pas. Allez, est-ce qu'on peut trouver peut-être un extrait, un extrait de ce documentaire? Alors, Homo en France. Alors, bande-annonce peut-être. Il paraît que le doc est super. Si j'avais eu le temps, mais en ce moment, ce temps, je ne l'ai pas, je l'ai à la bande-annonce. J'aurais demandé à France Télévisions l'autorisation de le streamer, en fait, de le regarder avec vous, ce doc. Voilà, bon, c'est diffusé ce soir sur France 2. J'ai une espèce, pardon. Mais j'ai. Je suis un peu débordé en ce moment. Entre France Info, question pour un champion, et mes projets sur Twitch, notamment les streams dans les musées à venir et puis la rentrée prochaine. Et donc, j'ai pas demandé à France Télévisions. Mais je pense que c'est un excellent doc, tout le monde en parle comme ça. Hop, je vous montre la bande-annonce ici de ce doc Homo en France. C'est ce soir, 21h10, sur France 2. Il y a une explication ici, regardez. Dans le cadre de la journée mondiale, donc demain, contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, France 2 propose une soirée spéciale mardi 16 mai, c'est aujourd'hui, à partir de 21h10, avec un documentaire inédit coécrit par Vincent Denienne et Aurélia Perrault, un film bouleversant qui raconte l'expérience intime d'être lesbienne, gay, bi ou aujourd'hui en France. Je vais regarder ce doc, même si c'est pour dormir très très peu, je vais regarder ce doc. Bande annonce.
Une manifestation d'homosexuels.
Homosexuels, oh non, tout de même, écoutez.
Bonjour.
Lesbienne, gay, bi, pan, trans.
L'homosexualité a toujours été là.
Pour ma grand-mère, c'était vraiment inacceptable.
Une érection et c'est la décharge électrique.
On avait l'impression que tout ça était terminé et en fait pas du tout.
Toute ma scolarité, je me suis fait pas mal emmerder.
Et puis oui, j'ai eu énormément de pensées suicidaires.
Fallait que je fasse un choix entre mon épanouissement personnel et ma carrière professionnelle.
Donc moi, je préfère être bien avec moi-même et assumer ce que je suis finalement devant les gens.
Pour pas passer à côté d'une belle histoire d'amour, quand même.
Inédit, Homo en France, raconté par Vincent Dedienne, mardi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Alors, magnifique, cette bande-annonce, magnifique. 21h10 sur France 2 ce soir. Je regrette tellement de ne pas avoir demandé à France Télévisions l'autorisation pour le streamer et le regarder avec vous ce soir. Tant pis, manque de temps, je peux pas tout faire. 21h10 ce soir sur France 2, c'est pas la publicité pour le service public, pour le groupe pour lequel je travaille, mais je rappelle que je travaille pour ce groupe, c'est juste que ça a l'air vraiment super. Voilà. Mais merci et bravo le service public. Mais c'est pas possible. À un moment, c'est moi qui vais ban direct, c'est pas possible. C'est une blague, c'est pas. Lord Gibus, c'est quoi cette blague? Mais c'est pas possible. Bon. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais que ça vienne. Que ça vienne. De personnes qui viennent ici pour la première fois, dont c'est le premier commentaire, qui ne connaissent pas le cadre éditorial. On lui dit, bon, tu t'es gouré, bye bye, tchou, quoi. Mais de personnes dont je vois déjà plusieurs centaines de messages d'ancienneté, dont les gens qui savent ce qu'on essaye de faire ici, et qu'on puisse faire ce genre de blague. Oh, c'est pas possible. Ok. C'est fou. C'est compliqué de. Parfois. Ciao, tu vois ce marteau, parce que toi, tu l'as vraiment cherché. Ciao. Bah, ne reviens pas, s'il te plaît. Allez. On passe à autre chose, mais on aura l'occasion d'en revenir, même si ça en énerve manifestement certains. Hop. Les échos. On en est où? On va parler de la Turquie. C'est intéressant. On va parler de la loi qui arrive du groupe Lyot sur la réforme des retraites parce que ce débat n'est pas terminé. On va parler aussi un peu d'Ukraine et on va parler aussi des baisses d'impôts pour les classes moyennes annoncées par le président Macron pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Tout ça après une petite pause café parce que je crois que je l'ai bien mérité quand même. Lucien Ducasse, merci pour le 13e mois d'abonnement. Le Fury Class Sport, merci pour l'abonnement que tu offres à May07. Mailo 980, merci beaucoup pour le Prime. Bobby Lazor, merci pour le 13e mois d'abonnement. Rainbows 86, encore merci pour ce Prime. Et Hazard01, à l'instant, merci beaucoup pour l'abonnement que tu offres à Noémie Dethi Descol. Voilà. Je suis surpris par ce qui se passe à la marge dans ce chat. Là, je. Waouh! Ok, petite pause. Voilà, tout le monde s'apaise. On revient sur le reste de l'actualité dans un instant. On s'est calé une belle musique. Je baisse par contre un peu le volume parce que je l'ai mis assez fort pour écouter les extraits. Ok, c'est bon. Allez, 3 minutes de musique. Un petit peu de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça va me payer le café. Et je vous dis à tout de suite après la pause pour la suite de l'actu. Ciao, ciao.
Another slow burn. Now you got my attention.
Ok, j'ai loupé une partie de la chanson, donc je me la remets pour le raid de tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a une personne qui a été bannie de cet espace de discussion. Et à y repenser, donc ce trait d'humour que je n'ai pas voulu vous lire, je crois bien que c'est une blague. C'était les mêmes mots, les mêmes termes d'une blague de Coluche sur cette thématique. Coluche qui, en aucun cas, ne pouvait être... C'est un humoriste... pour les jeunes, qui n'est plus avec nous, saloperie de moto, qui ne pouvait pas être soupçonné d'être homophobe ou transphobe et qui avait fait une blague dont les termes ont été repris par la personne tout à l'heure. Si la personne qui a été ban, ouais, c'était putain de camion d'ailleurs, plutôt que putain de moto, exactement, qui a été ban pour cette raison, effectivement, dont la blague ne reflète pas les idées, mais une ref à Coluche, dans ce cas-là, viens nous voir en discutant avec les modos, en faisant une demande de déban, parce que, comme le dit Captain McBernick, tu peux le dire dans ton formulaire de déban, parce que dans l'historique, je suis remonté dans tes messages et je ne comprenais pas que tu puisses tenir de tels propos au vu de ce que tu as dit dans le passé. Et donc, ceci explique peut-être cela. Mais dans ce cas-là, quand vous utilisez les mots d'un humoriste, en plus il y a très longtemps, pour faire une vanne sur un sujet aussi sensible que celui-ci, dites-le, quoi. Dites, citation, entre parenthèses, Coluche, quoi. Parce que si vous ne le faites pas, comment voulez-vous, comme le dit Ginga dans le chat, problème de l'humour hors contexte, sans smiley, sans la citation, quoi. Voilà. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à nous le signaler. Et je pense qu'on pourra le comprendre. Mais attention, quoi, à l'humour sans smiley, sans indication, qui peuvent nous conduire à prendre ta phrase au premier degré, quoi. Voilà. Ah. Animez le chat là, bon, les modos, courage à vous. Hazard01, encore merci pour l'abonnement que tu as offert à Noémie Dessy Descall. Allez, on parle d'autre chose. On parle de ces annonces hier soir du président Macron qui ont déjà été évoquées par Gabriel Attal, le ministre, confirmé par le chef de l'État hier soir sur TF1, de baisse d'impôts, c'est la une des échos ce matin, en direction des classes moyennes. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça contient? C'est pour qui? C'est pour quand? C'est combien? Frenchy Guillaume, merci pour les bits. Je lis, vous verrez qu'il y a beaucoup de flou sur ce sujet. Le chef de l'État a donc annoncé hier soir 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes. La piste privilégiée passerait par des allègements de charges ou de la prime d'activité. Donc à proprement parler, ce n'est pas un allègement d'impôts. Alors si les impôts au sens large, c'est l'ensemble de la pression fiscale comprenant les cotisations, les taxes et les impôts comme l'impôt sur le revenu. Alors oui, c'est une baisse des impôts, mais si on prend le vocabulaire fiscal, il est précis, au sens propre, dans ce cas-là, ce n'est plus une baisse d'impôts. La piste privilégiée passerait donc par les allègements de charges ou la prime d'activité afin de favoriser les hausses de salaire, un geste qui devrait par ailleurs consacrer l'abandon de la promesse d'une baisse des impôts sur les successions. Allons voir cet article, comprendre un petit peu de quoi il retourne. Je vous disais, beaucoup de flou pour l'instant. Hein, pour l'instant, c'est une déclaration d'attention, on verra ce qui va se passer. Impôt, Macron promet donc un geste à 2 milliards d'euros pour, pas pour tout le monde, pour les classes moyennes. Annoncé hier soir sur TF1, compte tenu de l'état des finances publiques, je vous le disais à l'instant, cela revient à enterrer d'autres promesses comme la baisse promise sur l'impôt sur les successions. Comment renouer le lien avec les travailleurs des classes moyennes les plus remontés contre la réforme des retraites, écrit Renaud Honoré. Malgré les difficultés budgétaires, Emmanuel Macron s'est donc résolu à ressortir même le carnet de chèques. Une mesure de pouvoir d'achat est ainsi en préparation pour un montant proche de 2 milliards d'euros qui pourrait jouer sur les mécanismes d'allègement de charges sur les bas salaires. Interrogé hier soir sur TF1, le chef de l'État a donc redit sa volonté de donner un nouveau coup de pouce aux classes moyennes, c'est-à-dire aux Françaises et aux Français qui travaillent dur, qui veulent élever leurs enfants et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté, c'est l'inflation, parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas l'inflation, ont du mal à boucler la fin du mois. Quelqu'un me demande, les classes moyennes, c'est combien par mois? Siegfried Live, ça a été défini par le président Macron lui-même dans une interview à l'Opinion, et il parle d'un revenu de 1500 à 2500 euros par mois, si mon souvenir est bon. S'il évoque des baisses d'impôts, Emmanuel Macron reste en réalité assez évasif, moi je le disais flou, sur les modalités de ce geste. En clair, ça ne passera pas forcément par une réduction de l'impôt. Ah ah, de l'impôt sur le revenu. Donc attention quand on parle de baisse des impôts. Il a demandé au gouvernement d'y travailler, de faire des propositions. Depuis 6 ans, plusieurs mesures fiscales, nous rappellent les Échos ce matin, ont déjà été engagées pour se soigner ces fameuses classes moyennes. Outre la baisse de 4 milliards d'euros en 2019 de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Alors certains me demandent brut, net, par foyer, demandez au président Macron, hein. C'est lui qui est flou, hein. C'est pas moi, hein. Je suis désolé. Outre la baisse de 4 milliards d'euros en 2019 de l'IR, on peut ainsi citer la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales en 2018 ou encore la récente fin de la redevance audiovisuelle. Beaucoup de mesures coûteuses pour au final bien peu de gratitude, alors c'est intéressant. Un récent sondage Elab pour les Échos montrait que seulement 28% des personnes interrogées jugeaient que leurs impôts avaient baissé depuis 2017. Ce nouveau geste pour les classes moyennes devrait susciter un haut-le-cœur par ailleurs chez tous ceux qui, notamment Pierre Moscovici, hein, qui est le président de la Cour des comptes, qui en appellent à en finir avec les baisses d'impôts au moment où les caisses sont vides. Des baisses d'impôts qui ne sont pas compensées par la baisse d'autres dépenses, c'est exactement ce qu'on dit du côté de la Banque de France. Cette annonce devrait en tout cas aboutir à l'enterrement définitif, estiment les Échos, de la promesse de baisse des impôts de succession qu'avait faite Emmanuel Macron durant sa campagne de 2022. Voilà où on en est, pour qui, combien, quand, comment. Le président Macron a déjà annoncé hier soir que cette baisse lui dit des impôts, on va dire de la pression fiscale sur les classes moyennes en France ne se fera que quand le contexte budgétaire le permettra pendant ce quinquennat, donc il n'y a pas de date précise pour l'instant. Voilà. Voilà où on en est de ce sujet sur lequel vous êtes peut-être posé des questions. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec un papier sur petite information rapide sur la guerre en Ukraine. Alors, sur les impôts, ça râle, ça crie, il y a de la colère, il y a de la joie, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Ta 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 ta. Alors, est-ce que je peux être chafouin ? Est-ce que je peux être chafouin ? Est-ce que je peux être coquin ? Est-ce que je peux être mauvais esprit ? Est-ce que je peux faire ça ou pas ? Julio Franchute, merci pour le 20e mois. Je peux ou pas ? Est-ce que je peux ou pas ? Je peux ? Oui ? Oui, oui, ok. Si cette baisse de la pression fiscale sur les classes moyennes passe par une baisse des cotisations sur les salaires, bon, ça veut dire, si c'est ça, bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire baisse des cotisations, il n'y en a pas mille, hein, retraite ou chômage, c'est-à-dire moins d'argent pour le système de retraite tel qu'on connaît et le système de l'assurance chômage. Je suis vraiment taquin, je suis vraiment coquin, je suis vraiment chafouin. Ça veut dire potentiellement des systèmes qui vont être affaiblis, voire même en déficit, puisque avec moins de ressources. Et après, on va dire aux Français, je ne sais pas qui est ce « on », je ne sais pas pourquoi je fais cette analyse, qu'en fait, le système est en déficit, sinon en faillite, et donc qu'il faut le réformer, quoi. Je dis ça, je dis rien, mais la baisse des cotisations, c'était juste pour signaler que la baisse des cotisations, c'est bien, ça fait moins de pression fiscale, effectivement, et donc ça fait plus de salaire à la fin du mois, mais ça a aussi des conséquences, quoi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est une interrogation, quoi. C'est juste, voilà. Parce que ces cotisations sociales, comme on dit, elles servent à quelque chose à la base, quoi. Merci beaucoup, Squarneb. Tu sais, ce message, c'est que du bonheur pour moi. Merci beaucoup. Quelqu'un me demande, c'est une baisse des cotisations salariales ou patronales. Il s'agit de baisser les impôts, comme le dit le président Macron, des classes moyennes. C'est pas pour baisser les cotisations des entreprises, ce que tu appelles les cotisations patronales. C'est pour baisser les cotisations des salariés. À supposer que ce soit ça qui soit retenu, bien sûr. Allez, un tout petit graphique, une toute petite infographie, mais que je trouve très intéressante sur la guerre en Ukraine. Il y a à l'occasion des annonces de la Grande-Bretagne sur un soutien militaire et financier renforcé à l'effort de guerre des Ukrainiens contre l'envahisseur russe. Eh bien, il y a Les Échos qui ce matin publie le top 10 des pays les plus engagés pour soutenir l'Ukraine. Certains seront surpris, d'autres pas. C'est en milliards d'euros, hein, c'est du 24 janvier 2022 au 24 février 2023, sur un peu plus d'un an. Vous avez en rouge, je ne sais pas si vous voyez bien la différence de couleur, les engagements bilatéraux, donc directement d'un pays à l'autre, en l'occurrence d'un pays vers l'Ukraine, et en violet dans le cadre d'engagements européens. Numéro 1 de cette liste, les États-Unis. Alors, numéro 1, très 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 loin devant tout le monde, y compris les pays les plus proches de l'Ukraine en Europe. États-Unis, 71 milliards voilà, d'engagement pour soutenir les Ukrainiens. 71 milliards, c'est en dollars. En fait, si vous prenez les États-Unis et vous ajoutez d'un côté une somme de tous les autres, l'ensemble des investissements, des engagements de tous les autres n'arrivent pas à égaler l'investissement des États-Unis et même de très loin. L'Allemagne, par exemple, c'est 14 milliards, 7,4 milliards de dollars d'engagements directs bilatéraux, 7,3 milliards dans le cadre d'engagements européens. Deuxième place pour l'Allemagne. Deuxième place pour l'Allemagne. C'est intéressant parce que l'Allemagne, au début, c'était un des pays les plus frileux pour soutenir les Ukrainiens. Au début, on sait même du côté de l'Ukraine, de Kiev et de Zelensky, on dénonçait le soutien très très faible de l'Allemagne qui au début ne fournissait que des casques à l'armée ukrainienne. Voilà. L'Allemagne qui a bien rattrapé ce retard, qui est numéro 2 derrière les États-Unis avec 14 milliards. Le Royaume-Uni, qui est un des pays européens les plus investis, les plus dans le soutien à l'Ukraine, près de 10 milliards, 9,8. La France est en 1, 2, 3, 4e position, mais très 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 loin derrière les autres, avec 1,7 milliard en engagement bilatéral direct et 6 milliards quand même dans le cadre d'engagement européen. Donc si on ajoute, alors je dis très très loin, on n'est pas très loin de la Grande-Bretagne quand même. Ça fait 7,8 milliards en tout, donc pas très loin du Royaume-Uni. Les Pays-Bas 3,9 plus 2,7, le Japon 6,2, l'Italie 1, la Pologne 3,5, l'Espagne 0,7, le Canada 3,8 milliards. C'est devenu un concours, demande Caïs, c'est pas une histoire de concours, c'est de savoir juste quel est le soutien effectif, mesuré ici en milliards de dollars, du soutien de tel ou tel pays, puisque certains disent « Ah mais non, on soutient, au moins ça c'est la réalité du soutien ». Je trouve ça intéressant. Ah, Tonton Buzz écrit, il faudrait parler en pourcent du PIB, ça montrerait mieux les efforts. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. De, par exemple, Petit Clem écrit qu'en part de PIB, le trio Estonie, Lettonie, Lituanie est devant, il me semble. Et je pense que c'est assez juste, ouais. Assez pertinent, cette remarque. La source de ce graphique, très bonne question. IFW, Les Échos, qu'est-ce que c'est IFW? On va regarder tout de suite. Bonne question, faut toujours s'interroger sur la source. IFW, c'est quoi? Est-ce que je vais trouver ça? C'est un institut économique. Manifestement, le Kiel Institute. Je crois que c'est ça. Voilà. Voilà, voilà pour Les Échos. Si quelqu'un vend... Désolé, attends, je vais me racler à la gorge en éteignant le micro. Si quelqu'un a à vendre deux poumons, même d'occasion, en bon état, ou même usagé, qui fonctionne à peu près, pas forcément avec une grosse capacité, mais qui me permet de travailler correctement dans mon métier où je suis amené à parler un petit peu, je suis acheteur en fait, voilà. Parce que là, ça fait ouais, ou 3-4 mois que je suis comme ça. Hein. Fumeur dans ta jeunesse, même pas en fait, non, j'ai jamais fumé, je sais pas ce que c'est, si c'est la pollution, si c'est les pollens, ça a commencé il y a 4 mois et malgré un moment antibiotique, corticoïde et tout, ben ça passe pas en fait. Donc je vois récemment, j'ai dit pas mal de conneries là-dessus. Je me cours beaucoup sur les spécialités de médecine, les pneumologues. Pneumologue, c'est ça. Je vois mon pneumologue dans pas trop longtemps. Mais je veux en savoir plus parce que c'est ouf, c'est chaud quoi. Vous croyez que c'est un Covid long? J'ai des médecins dans le chat. Suite Covid, ah tu crois? Mix pollen, pollution et Covid. Bah c'est une belle saloperie. Hein. Ouais, je suis certain, j'ai la même chose Sam. Ah, y a Maj Milamber qui pense que c'est un Covid long. Ouais, depuis décembre je suis dans le même état. C'est chiant hein? Ouais. Bah c'est pas, c'est bon, je suis pas, je me sens pas hein, en phase terminale quoi, mais je me sens pas de 100% non plus quoi. Voilà. J'ai une grippe en janvier, ouais, j'ai une grippe, ouais, j'ai eu ça, ouais. Ça a pas l'air d'être une toux allergique asthmatique en tout cas. Bah peut-être que la pneumologue va me dire en fait hein. OK. Tu n'as pas de reflux gastro-œsophagien, ça fait typique. Ah si, j'ai ça aussi. J'ai ça aussi. Super. Je suis en pleine forme. Yes, oui, en pleine forme. Alors, les amis, pardon pour les cinéphiles, les amoureux de cinéma, ben, je ne vais pas vous lire de papier sur Cannes aujourd'hui parce que, ben, ouverture début du Festival de Cannes aujourd'hui, avec cérémonie d'ouverture ce soir, c'est à suivre à partir de 18h sur France Info. Parce que j'ai pas trouvé de papier passionnant sur Cannes, mais je suis sûr qu'on va pas en manquer dans les prochains jours. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de lire le basket. Rappelez-moi qu'on doit lire le papier sur Wembanyama. Donc, c'est la une de Libération que je ne vous ai pas montré ce matin, c'est Cannes. C'est la une de La Croix, c'est Cannes. Mais rien de délirant aujourd'hui. Mais dans les prochains jours, il y en aura bien sûr. Un petit édito, en revanche, que je trouve passionnant sur ce qui s'est passé en Turquie. Parce que la semaine dernière, quand on lisait les avis des spécialistes, quand on regardait les sondages, hop, je vous montre la une de La Croix. Pardon, qu'est-ce qu'on lisait? Eh bien, en fait, que le président turc sortant Erdogan depuis genre 20 ans au pouvoir allait sans doute se faire dégager par une coalition de l'opposition. C'est ce que disaient les sondages. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir et surtout lundi quand on a eu les résultats officiels définitifs? On s'est rendu compte que Erdogan a failli être élu au premier tour avec juste un peu moins de 50% des voix, 49 et des brouettes, et que le candidat de l'opposition, il était à genre 44 et quelques pourcents. Donc assez loin en fait, et beaucoup se disent que non seulement Erdogan ne va pas perdre, mais qu'il va sans doute être réélu. Pourquoi, comment, édito, signé Jérôme Chapuis, que je trouve très bien foutu, dans La Croix, ce matin, c'est parti. Pour ce matin, il est 12h15, on est encore le matin. Recep Tayyip Erdogan, en bonne voie donc pour conserver le pouvoir. Sans surprise, la chute du sultan attendra. Même si l'opposition turque assure y croire encore, l'hypothèse d'une victoire de son candidat à la présidentielle apparaît désormais peu probable. Lors du premier tour de la présidentielle dimanche, Kemal Kılıçdaroğlu est arrivé plus de 4 points derrière, c'est ce que je vous disais, Recep Tayyip Erdogan. Certes, le président sortant n'avait jamais été mis en ballotage, c'est la première fois en 20 ans qu'il doit participer à un deuxième tour. Second tour inédit donc, mais avec 49,5% des voix, il n'est pas passé loin de la réélection directe dès le premier tour. Et l'Alliance, emmenée par son parti l'AKP, remporte la majorité absolue au Parlement puisqu'il y avait des législatives au même moment ce week-end en Turquie. Donc on en est où? À moins d'un improbable retournement, la Turquie va donc s'engager 5 années de plus dans la voie de l'islamo-conservatisme, écrit La Croix. Un résultat qui démontre une fois de plus la mainmise d'Erdogan sur le pays, car de nombreux éléments semblaient de nature à le fragiliser. Pourquoi les gens pensaient qu'il allait perdre cette fois? Sa gestion du séisme en Turquie, qui a fait plus de 50 000 morts l'hiver dernier, la polémique sur les normes antisismiques des constructions qui n'étaient pas respectées en raison des pots de vin versés par les promoteurs immobiliers au pouvoir, donc il y avait ça. L'incapacité de son gouvernement à juguler l'inflation qui est énorme, qui a explosé en Turquie, ou encore la soif de renouvellement du parti de la population, notamment de la jeunesse. Tout cela n'a pas fait le poids. Face à quoi? Qu'est-ce qui a permis à Erdogan de faire ce score au premier tour? La rhétorique nationaliste, écrit La Croix, d'un leader autoritaire qui ne s'embarrasse ni avec les faits, ni avec les libertés publiques. La participation massive, près de 90%, et la campagne animée ne doivent pas faire oublier que les médias en Turquie sont au garde-à-vous, ni que les grandes voix se sont depuis longtemps été emprisonnées ou exilées. Les fractures traditionnelles se sont encore creusées. Les grandes métropoles et le Kurdistan votent majoritairement pour l'opposition. Les zones rurales soutiennent Erdogan, lequel est donc bien parti pour demeurer à la tête d'un pays aussi divisé que mudelé.
Muselé.
Pardon. Soyons prudents. La semaine dernière, tout le monde ou presque nous disait qu'Erdogan allait perdre. Aujourd'hui, en train de nous dire qu'a priori, il va être réélu dans 15 jours. Le deuxième tour, c'est dans 15 jours. Soyons prudents, ce sont les Turcs qui décident. J'hésite entre deux thèmes. Il faut que je me racle la gorge, je coupe mon micro. C'est chiant, hein. Basket, ou alors l'histoire de la loi du groupe Lyot sur la réforme des retraites. On finit avec quoi ? Je vais vous faire les deux, mais c'est l'ordre en fait. Le basket, je vais le faire. On finit avec le basket ? Allez, on finit avec, hein. On finira avec le basket. Je vous lis rapidement la loi, c'est passionnant. C'est dans l'Humanité ce matin, regardez. Donc, l'Humanité qui se pose la question. D'ailleurs, Erdogan peut-il perdre, vous voyez ? Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé. Deux pages vraiment vachement bien foutues sur ce nouvel épisode de la guerre contre la réforme des retraites, parce que ça n'est pas terminé, ça n'est pas terminé. Retraite, la Macronie prête à sortir l'article 40, qu'est-ce que c'est que ça ? Depuis quelques mois, on est en train de redécouvrir tous les articles de la Constitution. La majorité et l'exécutif envisagent de déclarer, écoutez bien, financièrement irrecevable la proposition de loi qui arrive à l'Assemblée, là, qui abroge la réforme des retraites. Parce que le groupe centriste Lyot et la gauche donc vont pousser et vont essayer de faire adopter cette proposition de loi. Vous allez voir. Je vous raconte l'histoire, vous allez voir, c'est extrêmement clair. Dans quelques jours, donc, ce sera le 8 juin précisément, mettez-les dans votre agenda, nouvelle torpille parlementaire. À savoir la proposition d'abrogation de la réforme des retraites qui vient d'être adoptée. Abrogation du report à 64 ans, de l'âge légal à la retraite, présentée par qui ? Par le groupe à l'Assemblée, centriste, liberté, indépendant, outre-mer et territoire, qu'on appelle le groupe Lyot. Ce sera lors de sa niche du 8 juin, la niche parlementaire, qui est en fait ce moment où chaque groupe parlementaire a le droit de mettre en avant des propositions de loi. S'ils envisagent toujours d'avoir recours à l'obstruction, donc là on parle de la majorité, pour éviter un vote qu'ils pourraient bien perdre, faute de majorité, les marcheurs pensent même pouvoir carrément éviter l'impact grâce à un énième tour de passe-passe. Pourquoi, du côté de la majorité, on a très 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 peur de ce texte ? Parce qu'il n'est pas impossible qu'il passe, qu'il soit voté. Parce qu'on n'a pas besoin d'une majorité absolue à l'Assemblée pour une telle proposition de loi, comme pour une motion de censure par exemple. Une majorité simple, relative, suffit. Et donc, ça pourrait faire passer cette proposition de loi qui annule la réforme des retraites. Sauf que... Au final, elle n'a aucune chance d'aller à son terme, puisqu'il faudrait que le Sénat vote également ce texte dans les mêmes termes. Un Sénat qui est dominé par la droite aujourd'hui. Donc ça ne peut pas passer. Mais quand même politiquement, symboliquement, que l'Assemblée vote une proposition de loi qui annule la réforme des retraites, eh bien c'est quand même un coup dur pour le gouvernement. Du coup, du côté de la majorité, on se demande si on ne pourrait pas trouver un moyen que cette loi ne soit pas votée. Donc ça pourrait être de l'obstruction parlementaire, mais ce serait très très mal vu, puisque le gouvernement et la majorité n'ont cessé de dénoncer l'obstruction parlementaire de la NUP et notamment de LFI, donc c'est quand même très dur à jouer. Sinon, il y a l'article 40. Le moyen d'invoquer l'article 40 de la Constitution, lequel permet de déclarer irrecevable toute proposition qui aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Et il se trouve que, évidemment, si vous supprimez la réforme des retraites, du côté du gouvernement et de la majorité, on va dire « Ah ben oui, mais là, vous supprimez une recette. » Donc, ça n'est pas possible. Article 40, quems contre quems. Mais c'est encore plus compliqué que ça, vous allez voir, puisque du côté de Lyot, on a vu le coup venir. Et Bernard Pancher, qui est le président de ce groupe, a dénoncé dans un communiqué ses manœuvres pour empêcher le vote, alors que l'article 2 de cette proposition de loi prévoit une grande conférence par ailleurs pour intégrer dans un nouveau texte de nouvelles mesures de financement pour qu'il n'y ait pas diminution de la ressource publique. Quoi. Hein ? Excellent, non ? Ah, vous dites Kems ? On disait Kems chez moi en Bretagne quand j'étais jeune. Soit les Bretons, on n'est pas... On est différents. Hein. Différent. On tient... On a un. Ah, vous dites Kems, vous ? Alors on disait Quems, nous. On jouait au kilo de merde aussi, mais c'est un autre jeu, ça. Bah, vous dites Quems, vous Ah, Poppy Pop, il dit Quems. Ah, donc Quems contre Quems. Ah, c'est moche, Quems. Hein. Nous, on dit Quems. C'est bien mieux. Alors, tu vois, il y a Rolf Blues qui confirme. En Bretagne, on dit effectivement Quems, mais le nom, c'est bien Quems. Alors là, moi je dis que Quems, ça sonne quand même bien mieux. Nouvelle démonstration, s'il en fallait une, que la Bretagne, c'est mieux. C'est mieux que quoi ? Que tout. Hein ? La beauté des paysages, le côté sympathique et néanmoins bourru des habitants, la proportion à fêter n'importe quel événement avec 2-3 petits verres, ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12. Le climat, personne ne peut nous reprendre sur le climat, on a un climat qui est juste incroyable. La gastronomie, la galette, la crêpe, le Queen Yaman, etc., etc. Bon. Et le Quems. Hein, voilà. Tu vois, il y a Angélique qui est d'accord avec moi qui dit « Je suis parti vivre en Bretagne quelque temps et je n'irai plus jamais. » Ah, zut, j'avais pas vu la fin de la phrase. Ok, donc tu es ban direct, Angélique. Salut, tcho. Non, je ne banne pas. La Bretagne, c'est le futur. Ah, va-t'en. Je dirais même, la Bretagne, c'est le futur. C'est le passé et c'est le présent. C'est tout. C'est même le passé composé. C'est le futur antérieur et c'est le subjonctif de l'imparfait. C'est tout ça. C'est la Bretagne. Pardon. Donc le débat arrive, c'est le 8 juin, ça va être assez passionnant. Fin de l'article, au sein de la majorité, l'option de l'article 40 sera même évoquée en réunion de groupe. Il n'est pas certain qu'elle fasse l'unanimité, alors que des voix s'étaient déjà élevées contre la méthode brutale du gouvernement pour faire passer sa réforme des retraites. C'est intéressant parce que l'humanité souligne quand même qu'au sein même de la majorité, on n'est pas tellement pour ces méthodes. Pour certains, je rappelle qu'il y a des députés de la majorité, hein, du camp Macron, qui ne voulait pas que cette réforme soit adoptée par 49-3, qui voulait qu'il y ait un débat, qu'il y ait un vote, qu'une réforme comme ça ne pouvait pas passer en force en quelque sorte. Et donc ce sont des députés de la majorité qui l'ont exprimé. Et donc là encore, il y a des députés de la majorité qui disent non à l'obstruction parlementaire, non à l'utilisation de l'article 40, il faut que cette loi puisse être débattue. Voilà. À suivre. Et puis, on va aller chercher maintenant l'article que j'ai complètement oublié dans Le Parisien de vous lire sur le basket. Let's go ! Merci Clems. Je crois qu'on prononce Quems, mais c'est bon. Merci Clems 564 pour le 20e mois d'abonnement, c'est super gentil. Il y a Clément Polito qui dit « Oh, tu as eu l'intonation d'Edouard Baird. » Tu savais à quel point c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Je suis totalement en admiration devant cette personne. Basket, on y va. Wembanyama, la folie Wembanyama. On va parler de la loterie exactement. Certains connaissent le sujet. C'est parti. On allume la caméra zénitale avec un Z comme Zorro. C'est parti. Wembanyama, donc c'est ce jeune homme, Victor de son prénom, un immense joueur français. Par sa taille, mais surtout par le talent. Un mois avant la draft, donc on va le voir, on va le perdre, hein, il joue en championnat français aujourd'hui, il va partir en NBA aux États-Unis, il n'y a aucun suspense là-dessus, il est trop fort. La draft, c'est dans un mois, mais cette nuit, à 2h du matin, me dit Luke Luciano, il y a autre chose, il y a la loterie. Let's go. La loterie qui a lieu la nuit prochaine va déterminer l'équipe qui pourra choisir, merci beaucoup FRO, ouais, c'est gentil, tout va bien, je suis en pleine forme. Choisir le prodige français, quelle équipe de NBA va pouvoir choisir le Wembanyama, meilleur espoir de la planète basket, meilleur espoir, pas au niveau français, au niveau mondial, Bretagne y compris. Voilà comment ça marche. Moi je ne connaissais pas le fonctionnement de cette loterie, ben maintenant je le sais grâce au Parisien, page 20. Let's go, article d'Éric Michel. Dans la nuit, de mardi à mercredi, donc c'est cette nuit, la nuit prochaine, vers 2h du matin en France, Victor Wembanyama saura où il passera les 3 ou 4 prochaines années de sa vie et peut-être plus. Un mois avant la draft, le Français va donc découvrir quelle équipe aura la chance, tu m'étonnes, de l'accueillir. Fonctionnement du sport US oblige, il n'a pas son mot à dire, c'est pas lui qui choisit. La loterie de la NBA et donc quelque part une part de hasard fixeront sa future destinée, on vous explique, dit le Parisien. Qui a le droit de jouer à cette loterie ? 14 franchises, toutes celles qui n'ont pas participé aux playoffs de la NBA cette saison sont inscrites à la loterie. Celle-ci détermine avec une grande part de hasard qui aura le premier choix de la draft qui aura lieu dans un mois. Tout le monde suit ? Elle permet, cette draft, aux 30 équipes NBA de recruter les meilleurs espoirs de la planète à travers un système qui est un petit peu complexe, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, certains connaissent ça très très bien. La draft a donc été créée pour rééquilibrer les forces au sein de la NBA, qui est le championnat nord-américain de basket, explique Rémi Reverchon, qui est spécialiste NBA chez beIN Sports. La moins bonne équipe de la ligue recrute le meilleur jeune espoir de l'année. La moins bonne équipe de la ligue recrute le meilleur jeune espoir. Le meilleur joueur, c'est pour les plus mauvais. Voilà, pour rééquilibrer un petit peu les forces. Comme le dit Krapkit, ce serait rigolo ce système en Ligue 1. Voilà. Là, vous avez Le Havre qui est sur le point de remonter en Ligue 1, là, hein, c'est pas loin. Ils sont en Ligue 2, là. Le Havre qui attend depuis 15 ans, je crois, de remonter en Ligue 1, eh ben, Le Havre pourrait choper. Alors, pas du coup, par exemple, Mbappé, parce qu'il n'est pas considéré comme un espoir, mais un super joueur qui arriverait sur le championnat. Quoi. Seulement, alors après, donc ça c'est pour le premier, la deuxième pire équipe recrute le deuxième meilleur joueur, et ainsi de suite, je pense que vous avez compris le principe. Seulement, attention, c'est pas terminé, pour éviter les triches et les équipes qui perdraient exprès pour récupérer les meilleurs, ce qu'on appelle le tanking, parce qu'il y a eu ça, dans le passé, eh bien la NBA a créé cette loterie qui donne à chaque franchise, en fonction de son classement, un pourcentage de chances de bénéficier des meilleurs choix. Explication. Les trois cancres de la NBA, donc les trois moins bons clubs de la dernière saison, Detroit, San Antonio et Houston, vont partir avec, j'ai dit Detroit, bon Détroit, hein, peut-être qu'on peut le jouer en français, pardon, vont partir avec 14% de chances de choisir en premier. On me dit que le tanking existe toujours d'ailleurs. Charlotte 12,5%, Portland 10,5% et ainsi de suite. La Nouvelle-Orléans par exemple qui a fait une très bonne saison, eh bien il n'a que 0,5% de chance d'avoir Wembanyama dans ses rangs, mais ça reste possible, précisément 0,5%. Comment ça marche? La machine qui livre le verdict cette nuit là est identique à celle de notre loto, vous voyez les boules là, ah ben, c'est pareil, 14 balles de ping-pong, c'est le terme qui est employé par la NBA, numérotées de 1 à 14, sont placées dans l'engin, ça tourne, après un brassage de 20 secondes, 4 balles, plouc, sortent à 10 secondes d'intervalle de la machine. Je crois que j'ai bien fait le bruit de la boule. L'équipe qui a devant elle le combo gagnant des 4 boules emporte le premier choix. Ce premier choix est glissé dans une enveloppe et dévoilé à la télé dans le studio d'ESPN qui est juste dans la salle à côté. Et c'est annoncé en direct. En France, la loterie est diffusée en direct, par exemple cette nuit sur beIN Sports, avec un téléspectateur attentif, oui, Victor Wembanyama lui-même, puisque vous avez bien compris que ce n'est pas lui qui va choisir sa destination. Maître Pixel pose une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que je la pose. Comment le salaire, du coup, est défini? C'est pas lui qui choisit son club. Comment est défini son salaire, les amis passionnés de basket, là? Plus t'es pris haut, plus il est haut. Il y a un contrat de base minimum. Son salaire est pas terrible pendant plusieurs années, me dit Dubroutz. Il y a des contrats rookie de 2 ans, en fait. Mais ça dépend un peu du classement de draft. Voilà, il y a Jean Valdu qui semble maîtriser le truc. Salaire rookie sur les 4 prochaines années et en fonction de la position de draft. D'accord. Donc c'est un contrat spécial pour les rookies. Les rookies, c'est le nouveau joueur, les jeunes, qui est manifestement pas très 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 élevé, mais qui est influencé par la position dans le draft. Ok. Et alors après, au bout de 4 ans, Arnaud précise, contrat de 2 ans plus 2 ans d'option, bah, c'est l'explosion. Hein. Si tu as confirmé ton niveau, la fête. La fête. Jolioc, pas terrible, c'est quand même plus d'un million par an. Bah oui, mais... Combien il gagne Mbappé? Je sais pas, d'ailleurs, je vous pose la question. Donc là, on me dit un peu plus d'un million par an. Pour Wembanyama, là. Mbappé, il gagne combien? Combien? Vous qui savez tout. Le pilier de barre me dit 160 millions par an. Voilà. C'est ça? Ah ouais, 6 millions d'euros par mois, me dit Castorix, plus 60 millions de primes, donc c'est ça. Donc ça ferait, elle serait plutôt 120, 130 alors. Bah 200, ah, vous n'êtes pas d'accord. On me dit entre 130 et 200 quoi. Ouais. Je sais que c'est pas un rookie Mbappé fera, je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste pour comparer quoi. Ok. 200 millions par an avec les pubs. Ok. Bon, juste pour vous dire, vous voyez que Victor Wembanyama sera à peu près à 1 million par an. Donc c'est cette nuit. Salut Eden qui nous fait un petit coucou depuis le train Paris-Douai. Dans la nuit de mardi à mercredi, personne ne dira telle équipe choisit Victor Wembanyama parce que le nom de l'équipe ne sera même pas prononcé. On saura juste qui pourra choisir en premier. Hein, vous avez compris la petite subtilité ? Est-ce qu'il existe un doute que le français sera ce choix numéro 1? Est-ce que l'équipe qui va avoir la position numéro 1 va choisir Wembanyama, hein? L'équipe, en fait, a le droit de choisir qui elle veut en premier. Donc, il y a un petit suspense. Existe-t-il un autre doute que la franchise victorieuse de la loterie ne prenne pas le joueur de la draft? Il y a une chance sur quelques milliards, souligne un fin connaisseur de la NBA. Il y a très peu de chance. Ça peut arriver qu'une équipe n'ait pas besoin d'un joueur au profil comme Wembanyama. Voilà. Mais dans ce cas-là, il faudra que le general manager qui prend cette décision présente de solides arguments ou bien qu'il quitte ensuite la ville parce que les fans ne lui pardonneront pas. La réponse est il y a assez peu de chance, quoi. Il y a assez peu de chance. Voilà. Intéressant, hein ? Ben voilà, les amis. 2h46 de stream. Une petite siestoune à venir pour moi. J'espère avec mon petit Solal si c'est pas endormi. Et après, je me réveille assez tôt cet après-midi parce que j'ai un rendez-vous vers 16h dans un musée parisien pour... faire un petit stream technique de vérification de la qualité de ce qu'on va pouvoir vous faire, ce qu'on fait systématiquement avant les streams dans les musées, dans l'exposition Étienne. On l'a streamé à la Fondation Louis Vuitton, on l'a streamé au musée du Louvre, hein, qui n'était que pour nous, un soir. On a fait la même chose au musée d'Orsay, on est allé au muséum de Bordeaux, il y a quelques semaines on est allé avec Étoile au musée du Quai Branly, on s'est régalé, c'était magnifique. Et là, dans 15 jours, eh bien, je vous emmène. Eh bien, vous ne saurez pas, parce que ce n'est pas maintenant. Je vous le dirai une semaine avant. Dans 15 jours, je vous emmène découvrir un autre musée. Bon, je peux vous dire que ce sera à Paris. Puis dans un mois plus tard, on quittera Paris. On ira voir une très belle exposition, mais pas à Paris. Je peux vous dire qu'il y aura deux streameuses avec moi pour ce nouveau stream dans un musée dans 15 jours. Voilà, deux streameuses. Suspense. Suspense. Ah ah ! Vous ne savez pas. Ah ah ! Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout. Vous ne savez pas du tout. Vous ne savez, vous n'avez, c'est énorme. Vous allez, c'est énorme. Imaginez le truc le plus fou. Et ben, ça va être ça. Imaginez le truc le plus fou, ce sera ça. Ouais. Un truc de. Pff, ben, certains ont deviné dans le chat. Certains ont deviné. Ouais. Et oui, ça a un lien effectivement avec. Ça a un lien avec une histoire très récente. Ouais. C'est un truc de fou, totalement improbable. C'est fou, vous allez vous arracher les cheveux. Ça, voilà, là vous êtes 3000 de chauves dans quelques jours. C'est un truc de dingue, un truc de fou. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais si, là, c'est pas possible. Si, si. Non, mais non, il peut pas faire ça. Mais si, vous allez voir. Deux streameuses. Rendez-vous dans une semaine. Dans une semaine, j'annonce. Le stream est dans 15 jours. Ouais, dans une semaine, j'annonce, je crois. Un petit indice, deux streameuses. Ouais. Ouais, ça monte. Vous rendez compte comment on monte en gamme à chaque fois? Le premier stream dans un musée, on l'a fait à l'iPhone. Je dis on parce que Joe est toujours avec moi pour les streams un peu compliqués comme ça. L'iPhone, le petit appareil qui nous permet d'additionner des connexions internet pour avoir une super qualité. Voilà. On a fait ça un peu à l'arrache. C'était super cool pourtant. Ensuite, on est allé au Louvre et là, on a inventé. Enfin, plutôt Hélène a eu l'idée de la poussette de stream. Petite poussette pour enfants. On cale la caméra, on l'accroche, joli travelling et tout, le matos, la batterie, etc. Troisième stream, on a investi dans des petits micros HF, voilà, pour mettre sur celui qui nous fait découvrir le musée. Et puis le streamer. Et puis au quatrième stream au Muséum de Bordeaux, j'ai invité quelqu'un en plus. C'était l'ami Jamy Gourmaud. C'était super. Voilà. Donc la poussette de stream, les micros HF, Jamy Gourmaud. Voilà. Puis on s'est dit, mais il faut continuer à améliorer avec Joe. Qu'est-ce qu'on a fait ? Au dernier stream au musée du Quai Branly, avec notamment la magnifique exposition sur les kimonos, on a pris un ingénieur son avec nous qui pouvait nous mettre des micros HF et il gérait le son. Pour que Joe ait plus à s'en occuper, que Joe se concentre sur l'image et sur la qualité de la connexion. Et ça nous permet d'avoir autant de micro HF qu'on veut. Et au prochain stream dans 15 jours, eh bien, on garde l'ingénieur son, l'ingé son, on garde Joe, on garde la poussette de stream, on garde les micro HF, mais on augmente la qualité de la connexion, puisque désormais j'ai 3 boîtiers qui vont additionner les flux, les connexions 4G de 3 opérateurs différents. Pour avoir une connexion de fou, quoi. Putain, ça bosse, quoi. Et en plus, 2 streameuses. C'est un gros budget, non ? Ben, ça, ouais, ça commence à faire les sous. Ouais. Ça commence à faire les sous. Ouais, ça fait des sous. Les amis, je vous mets 2 minutes de musique, pas une seconde de plus, 2 minutes de pub pour ceux qui sont pas abonnés. Et on fait un raid, et c'est important, on va aller soutenir le travail de quelqu'un d'autre. Sur Twitch, voilà, parce que c'est important de soutenir le travail des créateurs, des créatrices de contenu et notamment de ceux qui n'ont pas encore beaucoup de monde. Hop, tadam, le petit ordinateur de Red qui vit sa meilleure vie, il est très vieux, c'est un ordinateur qui a près de 250 ans. Voilà, et qui a des petites fonctions simples, voilà, petites fonctions Word, tout ça, voilà. Je le fais encore travailler. Et voilà, je regarde vos propositions. Petite pause de 2 minutes et on arrête tous ensemble. J'ai envie de vous dire à tout de suite. Bande de belles personnes. Bougez pas, on arrête tous ensemble dans un instant. On va où alors ? Alors on va où ? Just another slow burn. Now you got my attention. Did I forget to mention I'll be gone by tomorrow on a plane to Chicago? I say it's not fair, not fair. Anyway, but you don't care anyway. I hope it all comes back again. I wanna get stuck. Just another slow burn. Burn, burn. It's yet a fire at both ends with the best lines and best intentions. Et c'est trouvé les amis, plein de belles propositions, mais il y a un truc extrêmement tentant, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas raid, mon ami, mon soutien, mon poteau, voilà, et c'est le garçon dont je viens de vous parler, avec qui justement eh bien, je réalise tous ces streams un petit peu compliqués parce qu'il est juste formidable, c'est mon réalisateur notamment de l'hebdo Étienne, c'est lui qui m'accompagne pour mes streams en musée, il aime la photo, il aime les chiens, c'est un garçon formidable qui a un cœur comme ça. Et que j'aime beaucoup, c'est Joe, D-J-O-W, Joe Coco, c'est le nom de sa chaîne pour ceux qui se perdent en cours de raid, D-J-O-W, Coco, Joe Coco, je charge le raid, il part dans quelques secondes, je vous souhaite d'être heureux aujourd'hui, de rendre les autres heureux autour de vous, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain matin, c'est la fête, on stream tous les jours, merci pour ce matin, je me suis régalé, le raid part dans 5, 4, 3, 2, 1. Merci pour ce matin. À demain. Je vais aller m'acheter des poumons. Ciao, ciao.